et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Bon, alors certains vont être déçus, ce n'est pas Joss, car Joss est en vacances. Donc si vous n'êtes pas satisfait de ne pas avoir Joss à la présentation, on vous invite à écrire à notre SAV et on vous répondra dans les deux prochaines années. Ceci dit, aujourd'hui on va vous annoncer, comme d'habitude, une émission remplie de débats, d'opinions différentes, d'engueulades et parfois même de mauvaise foi. Enfin, surtout French, hein, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est malhonnête, on peut se le dire. En
Exactement.
Gros, vous allez retrouver tous les ingrédients pour une émission qui va vous plaire, tout simplement. Bon, alors aujourd'hui, je reçois la petite nouvelle que je ne connais pas parce qu'on ne se parle pas en dehors, on va se le dire. Donc, elle s'appelle Taldir, elle a déjà fait un podcast sur Open Roads. Alors, Taldir, bienvenue parmi nous, bienvenue à la guerre des gamers.
Merci beaucoup.
Alors, tu sais, moi, je suis pas comme Josh, j'aime bien poser un peu des questions qui mettent mal à l'aise. Donc, si tu devais me citer le meilleur jeu vidéo de tous les temps, ça serait lequel ?
Je l'ai déjà cité la dernière fois et je vais réitérer Returnal dans mon cœur pour tout.
Voilà, donc vous êtes rendu compte.
Au moins, elle est cohérente, hein, tu vois. Une autre.
Elle est cohérente, mais on voit en quelques secondes qu'elle n'a pas de goût. Et à ses côtés, on retrouve finalement le Mbappé des podcasts des temps modernes, un certain French. Comment tu vas ?
Eh ben ça va super mon Jalma, j'ai enfin fini Final Fantasy VII Rebirth, donc tout va bien.
Oui, on va se le dire, tu en es quand même très déçu.
Déçu c'est un grand mot, mais en tout cas je suis très partagé, dirons-nous.
Oui, donc ce sera pas ton GOTY 2024.
Ah non, absolument pas.
Voilà, enfin quelqu'un d'honnête par rapport à la hype qui est autour de ce jeu. Alors moi je suis actuellement encore sur le FF7 Remake. On m'avait dit, ouais, ça c'est le meilleur remake, tu vas voir, c'est incroyable. Je trouve qu'il a beaucoup de moments faibles, mais on aura tout le temps de vous en reparler dans des podcasts ultérieurs. Bon, qu'est-ce qu'on se fait au programme aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Hein, on aime bien, avant d'aller au restaurant, savoir ce qu'il y a au menu. Moi, je vous ai concocté un super programme. Donc, vous allez retrouver en première rubrique le « Tu cliques ou pas », où on revient sur un peu l'actualité, savoir si ça vous intéresse ou non. Aujourd'hui, on va traiter la plaidoirie du geek. On revient avec du débat, il était temps. Et le débat du jour, je sens que ça va vous plaire, c'est peut-on faire encore confiance aux tests dans les jeux vidéo ? Je sens que vous allez vous engueuler là-dessus à mon avis.
C'est pas impossible.
Et on terminera par une petite chronique que je vous ai concoctée, le coffre maudit. Vous allez découvrir la petite surprise en fin de podcast. Et vous allez voir, j'aime beaucoup cette nouvelle rubrique. Allez, on commence tout de suite, accrochez vos ceintures sur le « Tu cliques ou pas ?»
Tu cliques ou pas ?
Alors, aujourd'hui dans le Tu cliques ou pas, le 18 avril dernier, Kingdom Come Deliverance 2 a diffusé son premier trailer avec, et ça on l'a pas vu venir, une annonce d'une sortie en 2024. French, est-ce que tu cliques sur cette info ou pas ? Et on te laisse commenter derrière.
Et bien sûr que je clique, mon cher Janmar. Bien sûr que je clique.
Et pourquoi ?
Bah, comme tu le sais, on partage quelque chose cette fois-ci, c'est rare, il faut le dire à nos auditeurs. On partage le fait qu'on est tous les deux de très grands fans de Kingdom Come Deliverance, premier du nom. Et donc, cette annonce, un peu surprise du fait que le jeu était en développement dans le plus grand secret depuis 6 ans, et qui sortira normalement cette année, en fin d'année sans doute, eh ben, moi ça me réjouit, pourquoi ? Parce que c'est un RPG dans le monde médiéval qui se passe en, si je dis pas de bêtises, en Tchéquie, en 1400 et quelques, si j'ai bien retenu. Ça sera la suite directe du premier jeu, où on va retrouver Henri, tous ces personnages médiévaux, en Europe de l'Est. Ce sont des périodes, bah, je sais pas toi Jalma, mais ce sont des périodes qu'on n'a pas souvent dans les jeux vidéo, donc c'est cool.
Eh bah écoute, moi je ferai mon commentaire juste après, t'as le dire, est-ce que tu cliques ou tu cliques pas ?
Je clique complètement, ça sent le métal, le cuir, les grosses armures, le monde médiéval bien bourrin. J'ai pas fait le premier, mais je clique complet sur ça, et en plus c'est du médiéval sans dragon. Alors on adore.
Ouais, c'est du médiéval réaliste en effet, enfin réaliste
ouais,
entre
plus
guillemets.
Plus réaliste. Moi c'est vrai Kingdom Come Deliverance. Bon là je vais parler un peu de ma vie privée. Moi je l'avais découvert pendant le Covid. C'est-à-dire qu'en fait en plus l'Epic Games Store le proposait gratuitement. Ouais, ça a été moi j'ai mon jeu de Covid pendant que vous viviez la pandémie. Moi je vivais au Moyen Âge pour le coup. Mais moi ce que j'avais adoré dans le premier opus, où on peut rappeler le début de l'histoire, en fait Henri est sur une quête vengeresse, il veut venger la mort de ses parents et retrouver les meurtriers en fait. Hein. Et d'ailleurs ça a l'air d'être une suite directe, et les développeurs oui. Ont annoncé que même ceux qui n'ont pas fait le premier arriveraient à se retrouver dans le deuxième. Donc on imagine un résumé etc. Mais moi ce qui m'avait impressionné en fait c'est l'exigence des combats médiévaux. Parce que Taldir parle de jeu bourrin, c'est loin d'être bourrin, c'est très tactique en termes de combat, hein, ça se joue en vue FPS. Et ça demande vraiment d'apprendre à maîtriser les armes à la main, ça demande à apprendre à maîtriser les armes. marque. Et plus vous allez vous entraîner et plus vous allez utiliser une certaine façon de battre, plus vous allez améliorer vos points de compétence. Donc tu le sentais réellement en combat. Mais c'est très exigeant, c'est que la moindre erreur ne pardonne pas. Hein. Et puis ce qui est bien, c'est que tu peux tout faire dans le jeu. Moi je me souviens qu'on pouvait aller voler directement dans des maisons pour essayer de récupérer de l'argent et des coffres. Tu pouvais améliorer ton crochetage aussi pour... voilà. Et ce qui était énorme, c'est qu'à l'époque tu pouvais te faire arrêter, aller en prison et tout perdre et revenir avec un équipement de zéro. Quoi. Donc c'est vraiment un jeu qui est très très exigeant. Et je pense vraiment qu'il n'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est pas un jeu facile, hein, faut se le dire. Hein.
J'ai précisé réaliste, bon je mets des guillemets, ça reste un jeu vidéo malgré tout, avec ses limites, forcément par rapport ses concessions par rapport au réalisme. Mais par exemple, un truc qui était assez rigolo et pour le coup je l'ai trouvé bien senti ici, à l'image de ce que tu parles pour les prisons, Jalma, les sauvegardes, on ne pouvait pas sauvegarder en permanence, il fallait utiliser un certain objet dans le jeu pour pouvoir sauvegarder. Donc il fallait réfléchir à deux fois quand on se lance dans une situation un petit peu désespérée.
Exactement, et pourquoi je pense que le 2 ça sent très bon, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le premier opus, ils étaient 11 personnes pour le développer. Là, ça fait, on sait, ils l'ont annoncé, ça fait 6 ans qu'ils sont sur le développement du 2, et ils sont passés, tenez-vous bien, de 11 personnes à 250 personnes. Donc, je pense qu'il va nettement s'améliorer par rapport au premier opus. Moi ce que j'attends de voir c'est l'évolution des graphismes. C'est vrai que le Kingdom Come Deliverance était un peu vieillissant en termes de graphisme. Moi personnellement ça va pas déranger, mais j'espère qu'on va avoir un bon graphique cette fois quoi.
Alors ça m'a pas j'ai pas trouvé ça foufou dans le fameux trailer sur le plan graphique. Taldir va nous dire juste après ce qu'elle en pense là-dessus. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est la qualité des animations. Alors j'espère que in-game on va garder ce rendu là, mais pour le coup c'est bien foutu dans le trailer d'annonce.
Moi j'ai trouvé ça super beau, ça m'a pas du tout choqué comme vous, donc carrément, moi je trouve ça beau, y a pas de souci.
Bon bref, je pense que pour nous tous, c'est la grosse attente de 2024, et peut-être un potentiel GOTY qui sait, hein, finalement.
Oui.
En ce moment, c'est souvent des jeux qu'on ne voit pas venir, hein, je rappelle que Baldur's Gate 3, il était passé un peu entre les radars, et mine de rien, donc pourquoi pas. Affaire à suivre. On passe au sujet numéro 2, Kena Bridge of the Spirit. Aurait, hein, on va quand même faire attention, aurait été enregistré aux États-Unis pour une potentielle sortie sur Xbox. Serait-ce la fin des exclusivités PlayStation? Je vous laisse répondre, vous cliquez pas. Allez, on va commencer par Taldir.
Bah moi je clique complètement. Déjà ce serait chouette que ceux sur Xbox puissent tester ce jeu-là, que moi j'ai relativement aimé, pas adoré mais aimé. Je trouve que le jeu est plus beau que bien. Mais pour découvrir le jeu et pour reparler un peu du studio Ember Lab, c'est chouette.
French ?
Et moi, je clique aussi. Alors, je rejoins ma consoeur Taldir. Effectivement, je suis toujours heureux que de nouveaux joueurs puissent découvrir des jeux qu'on a déjà, par le passé, joués sur PC ou PlayStation. Par contre, je m'inscris en faux par rapport, en désaccord avec ma chère Taldir, parce que le jeu est non seulement beau, mais il est également très bon à mes yeux. Il a une très belle histoire, il aborde des thématiques sur le passage de l'âme et sur la vie, la mort, qui sont assez intéressantes, vues d'un côté conte, mais assez cruelles. Et ce sont des choses que j'avais beaucoup, beaucoup aimées. Voilà, donc ouais, bien sûr que je clique. Je ne vais pas y rejouer à cette occasion, mais je suis très content que d'autres le découvrent.
Bon, moi je vais quand même rester mesuré par rapport à vous deux pour avoir fait Kena par le passé. C'est-à-dire qu'effectivement, graphiquement, il était très joli. Mais il y a un truc que vous n'avez pas du tout mis en avant, et moi je trouve que c'était un gros point faible du jeu, c'est la difficulté du jeu. Je trouvais qu'elle était très mal équilibrée,
oui.
Moi j'avais fait le jeu en mode difficile,
oui.
Et c'est-à-dire que ce que je déteste dans les jeux, c'est que j'aime bien me sentir en progrès dans le jeu, mais je déteste quand la difficulté augmente d'un coup sans raison. Et moi j'ai quand même le souvenir du dernier boss qui d'un seul coup était hyper compliqué à faire tomber, et ça j'ai beaucoup de mal. Est-ce qu'ils ont prévu depuis des mises à jour? Parce que moi c'est vrai que j'y avais joué à sa sortie. J'attends de voir, j'avais joué sur PC, donc quand il est arrivé sur PC pour le coup, ouais.
Ouais, moi c'est un sorcier qui m'avait complètement traumatisé, mais oui, il y avait des gros gaps de difficulté. Donc j'espère qu'ils auront pu faire quelque chose à ce niveau-là.
Ouais, et bah, je vous rejoins tous les deux, on n'en a pas parlé parce qu'on voulait vendre le jeu positivement, Jean-Marc. Mais effectivement, il y avait des gros soucis d'équilibrage quand on y a joué. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup d'updates, anniversaires diverses depuis, donc je sais pas quelle est la situation aujourd'hui. Mais j'espère, pour les nouveaux joueurs, moi pour l'avoir fini en normal, j'avais aussi constaté ces fameux gaps de difficulté qui sont pas forcément très agréables dans la progression du jeu.
Et puis on va quand même apporter une précision, je pensais que vous alliez relever, je vous ai tendu un piège et vous êtes tombés tous les deux dedans. J'ai parlé de « Est-ce la fin des exclus PlayStation ?» Je pensais qu'un de vous deux aurait eu l'intelligence de me dire mais que c'était Ember Lab qui était à l'édition et que c'était bien une exclue temporaire. D'ailleurs, le jeu est déjà sorti sur PC depuis, donc c'est pas étonnant qu'il arrive sur Xbox. Bon, bah, une fois de plus, je vois que vous avez bien bossé pour ce podcast, quoi.
Arrête. Il n'avait pas été marketé. Il a été présenté de mémoire dans un State of Play chez Sony, mais il n'avait pas été marketé comme une excuse Sony, de toute façon.
Oui, mais bon, c'est peut-être aussi un des jeux qui a pu faire vendre des consoles PlayStation, hein, on ne sait pas. Voilà. On passe à l'actu numéro 3. J'espère qu'elle va vous faire bondir, celle-là, Take-Two. Donc, on ne va plus présenter Take-Two, mais c'est ceux qui sont en train de développer actuellement GTA 6. Qui sont toujours plein de grandes promesses, ils nous avaient annoncé ne pas faire de coupes budgétaires au niveau du personnel. Et là, on apprend qu'ils licencient plus de 600 employés. Ils annulent plusieurs projets en développement. Alors moi, je me demande toujours ce qu'ils annulent comme projet, parce qu'ils tournent toujours autour de Red Dead et de GTA, pour économiser 200 millions de dollars. Sachant qu'en plus, on va le rappeler, on sait que le GTA Online fonctionne toujours très bien et que chaque trimestre, ils vendent énormément encore d'exemplaires de GTA 5. Donc, et puis au niveau fiscal, tout se passe très bien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? French, est-ce que tu cliques ou pas ?
Alors je clique, évidemment, et malheureusement, c'est... On l'a déjà dit souvent depuis le début de cette année, mais c'est une situation qui nous attriste terriblement. Pourquoi ? Bah tu l'as dit, Jalma, j'ai vérifié, hein. On parle publiquement de 5 millions de GTA V vendus par trimestre, mais...
Oui, alors j'avais vérifié ces chiffres, ils sont exacts, moi d'ailleurs ça m'a fait halluciner, quoi. Qu'ils arrivent encore à vendre 5 millions de copies par trimestre. Enfin, ça fait quand même 15 millions par an, je sais pas si vous imaginez, quoi.
C'est complètement fou. Et en plus, Take-Two, la maison mère derrière Rockstar, a aussi annoncé le rachat de Gearbox pour 460 millions de dollars ces derniers mois. Donc tout ça pour dire que les liquidités, Take-Two les a, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils les ont. Alors, quoi cette économie, entre guillemets, de bout de chandelle quand tu compares les sommes qu'on est en train d'évoquer là, je sais pas, c'est un truc qui me paraît incompréhensible et je me demande bien quand est-ce que ça s'arrêtera, ces bêtises-là de licenciement.
T'as à le dire, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, je clique de manière négative, hein, comme vous, je pense, mais c'est une info qu'on entend, j'ai l'impression, toutes les semaines, toutes les deux semaines. Là, ils enlèvent 5% de leurs effectifs, c'est énorme, et surtout qu'ils ont déjà fait exactement le même move l'an dernier, en février. Donc ils sont abonnés, ça y est, tous les ans ils vont nous faire la même chose. Et oui, avec le rachat récent, je comprends pas ce move-là. Ils pourraient faire des choses bien plus ambitieuses et sortir bien plus de jeux, mais ils choisissent la facilité. Donc,
Et pour préciser aussi, Jama, comme tu le disais, les fameux projets annulés sont des projets qui étaient non annoncés. Hein. Donc potentiellement, au niveau licence, ils ont Bully dont on attend depuis longtemps une éventuelle suite, mais bon, visiblement, tous les prototypes ont été arrêtés, donc voilà. Et c'est probablement peut-être quelques autres titres dont on n'a jamais entendu parler qui ne sortiront donc pas.
Ouais, bah alors après on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment des projets dans leur feuille de route ? Moi j'ai toujours un doute, parce qu'on a l'impression quand même que depuis des années, tout tourne autour de GTA et de Red Dead, mais qui se lance aussi à un moment donné peut-être dans une nouvelle licence, quoi. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que... alors moi c'est sûr, il y a des rumeurs comme quoi GTA 6 allait peut-être être reporté, donc forcément ils ont eu un impact dans la bourse, mais ça explique pas de licencier s'ils sont personne derrière. Et puis si on sait très bien, mais on le sait tous, GTA 6 est tellement attendu par les gamers que le jeu il va tout péter, quoi, parce que même les casual gamers vont jouer à GTA 6, quoi. Donc c'est inexplicable, incompréhensible, et on n'arrête pas de le dire ici, on se répète, le monde du jeu vidéo est devenu un monde d'actionnariat. Parce que je pense que le but, c'est de faire plaisir à l'actionnaire qui va encore s'en mettre de plus en plus dans les poches. Bah oui, tu baisses ta masse salariale, ça va te rapporter plus d'argent pour les actionnaires. On sait très bien que le monde du jeu vidéo fonctionne comme ça. Comment tu veux justifier des licenciements actuellement ? Ce n'est pas possible.
C'est ça le gros problème, mais tu l'as dit dès le départ. Le gros souci, c'est que nous, on a tendance à raisonner comme des passionnés et des joueurs. Et peut-être se mettre plus facilement du côté des créatifs et des petites mains du jeu vidéo. C'est ça qu'on aime. Mais... pour eux, c'est des grosses économies de structurelles, de boîtes, pour permettre d'engranger toujours plus d'argent.
Et moi, je me demande aussi juridiquement, ouais. Alors là, ça se passe aux États-Unis, mais comment ils auraient fait si ça avait été un studio français ? Parce que quand tu annonces des licenciements économiques, c'est soit quand tu as une baisse du chiffre d'affaires qui va entraîner des grosses difficultés pour ton entreprise, ou tu as le droit de licencier économiquement pour renforcer ta compétitivité. Je vais vous donner un exemple. La Poste l'avait fait à l'époque. Quand on est passé du digital, etc., la Poste a été obligée de licencier pour renforcer sa compétitivité parce qu'ils savaient qu'ils allaient baisser au niveau du physique, en fait, au niveau des enveloppes, de l'envoi de cartes postales, tout ce que vous voulez, voyez. Mais sauf que là, c'est inexplicable parce que c'est un studio qui est ultra compétitif et qui, en plus, engrange énormément d'argent. Donc, c'est injustifiable et c'est scandaleux. Moi, je vous propose, on va tous boycotter GTA 6, comme ça, c'est réglé.
Ouais, je pense que le public va peut-être pas être derrière toi sur ce coup-là, mais... Et de toute façon, ils ont dit qu'ils touchaient pas aux équipes de GTA 6. À ça, ils risquent pas d'enlever des personnes dessus, donc ça devrait pas changer les délais.
Ils sont déjà trop occupés à les cruncher, tu sais, t'as le dire. Ah non.
Oui,
allez, on passe au sujet numéro 4. Et je l'avais annoncé dans un podcast cette année, comme quoi je suis un visionnaire, je vous l'ai toujours dit. Mais j'avais annoncé que cette année, les créateurs d'It Takes Two allaient potentiellement révéler un nouveau jeu. Je vous l'avais dit ou pas, French, on est d'accord ? J'en ai parlé cette année.
Tu l'avais dit.
Je l'avais dit.
Tu l'avais dit.
Une rumeur qui vient de sortir. À ce qui paraît, on annoncerait un nouveau jeu du studio d'It Takes Two cette année. Potentiellement, ça pourrait avoir lieu à la Summer Game Fest, parce qu'en plus, on sait que le président du studio, je n'ai plus le nom en tête, est très proche de...
Joseph Fares.
Ouais, voilà, merci. Est très proche de Geoff Kingley. Donc, on sent que ça va arriver au Summer Game Fest ou au Games Awards. Voilà, on vous laisse le choix du roi. Est-ce que vous cliquez ou non ?
Moi, oui, complètement. Bon, bah, c'était quand même eux qui ont fait It Takes Two, le GOTY 2021. Donc, j'espère qu'ils vont continuer dans cette lignée. Et j'espère surtout que ce sera plus un successeur de It Takes Two que de A Way Out, qui était décevant.
Oh, comme ça bâche.
Oui, surtout que A Way Out était très bien. Je ne sais pas ce qu'elle raconte. Là, on est en train de la perdre. Déjà, tu vas poser ta bouteille d'alcool que tu tiens devant nous. Peut-être que ça t'évitera de dire des conneries en podcast. French.
Ouais, bah je clique aussi, It Takes Two, déjà j'ai le privilège de le finir la première fois avec toi, mon cher Jalma, rappelle-toi.
Oui, c'est vrai qu'on l'avait fait en amoureux, mais nous on avait adoré ce jeu en vrai. Hein.
Ouais, on a adoré, j'ai eu l'occasion de le refaire avec un autre pote il y a maintenant quelques mois, et voilà, c'est un jeu que j'ai adoré. Alors contrairement à Taldir, A Way Out, j'ai bien aimé aussi, malgré des petits trucs qui m'ont un peu gêné.
Non mais moi je trouvais que A Way Out, si on peut en parler du coup main dans la main, c'est que je trouvais qu'au niveau des énigmes, ça se renouvelait énormément. Déjà en plus c'était un jeu qui était court, avec quand même un scénario à rebondissement. Et moi ça m'a fait beaucoup penser à la série télé, certains ont dû la voir, c'est Prison Break. J'avais l'impression que ça a été beaucoup inspiré de Prison Break,
partie.
Une partie. Et c'était intéressant finalement, de quand t'as apprécié la série, de le découvrir par rapport au jeu quoi. Et sinon du coup French, est-ce que tu cliques sur cette news, ça t'intéresse, t'es curieux
Ouais bah moi oui ça m'intéresse énormément parce qu'on le sait, Azolite, ce studio qui fête ses 10 ans d'existence en plus et surtout fête aussi ses records de vente d'It Takes Two, on en parle souvent mais j'ai plus les chiffres en tête mais c'est un succès faramineux et tant mieux pour eux et c'est légitime. Et on sait que l'ADN du studio c'est de proposer des jeux en coop, donc sans se mouiller, on va dire que la nouvelle annonce à venir de cette année ça sera sûrement un jeu en coop, voilà. Et oui je suis très curieux parce que je trouve qu'ils ont une narrative dans le genre coop qui est particulier qu'une expérience solo qui marche très très bien et j'ai hâte de voir ce que ça va être. Alors moi j'espère, je sais pas vous, mais moi j'espère que ce sera pas une suite à It Takes Two mais bien un nouveau jeu totalement inédit, hein. Ça on verra.
Et c'est toujours des jeux chouettes pour ramener par exemple pour ceux qui sont en couple et qui ont une personne dans le couple qui joue pas, de ramener une personne un peu, de partager un peu cette passion là, c'est des jeux qui sont plutôt chouettes à faire en couple.
Oui, alors pour te répondre, autant te mettre avec un gamer ou une gameuse, comme ça évite de ramener quelqu'un sur un jeu. Après je vais
tout
quand même vous répondre sur le fait que je pense pas que ça va être une suite. Si on regarde un peu quand même le process, alors, je vais pas dire du studio parce que Azelite Studio n'existait pas quand Brothers est sorti, mais quand on prend Brothers après A Way Out qui là a été développé par Azelite Studio et It Takes Two, on est quand même dans trois univers bien différents. Le seul point commun qu'ils ont, comme vous avez dit, c'est qu'ils jouent en coop. Moi je l'attends de ouf parce que c'est compliqué quand même de trouver des jeux qui jouent en coop. Et je comprends pas que d'autres studios n'aillent pas sur ce parti pris là de développer des jeux qui jouent en coop à 2 ou en coop à 3, que ce soit en local ou en ligne. Et je trouve que la demande est quand même de plus en plus forte. Et quand vous cherchez vraiment des jeux qui jouent à 2, vous en trouvez pas tant que ça quoi. Et je pense que d'autres studios devraient proposer cette possibilité là, à mon avis quoi. Voilà.
Bah, je pense que dans le gameplay et dans la construction, ça doit être assez compliqué, surtout en coop local, de faire quelque chose qui se joue bien et qui est fluide. Je suppose que c'est pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a très très peu de jeux en coop local.
Ouais, mais pourtant, si je prends l'exemple de Nintendo, ils savent très bien le faire. On a un excellent Luigi Mansion 3 qui joue en coop à 2. C'est un excellent jeu, Taldir ne fait pas une réaction de grimace.
Non, alors, c'est un excellent jeu, mais la version coop est pas incroyable, on va
mais
pas
se dire. Alors, je ne vois pas en quoi elle est pas incroyable. Là, pour le coup, je voudrais bien que tu développes là-dessus. Tu vois, je ne passerai pas à la cinquième news tant que j'ai pas un... Voilà, voyez, elle m'énerve déjà. On se rencontre à peine et je suis déjà furax contre elle. Je ne vois pas en quoi il n'est pas incroyable à deux. Je veux dire, il a tout ce jeu, quoi.
Non, bah, je trouve que le deuxième personnage, quand on joue à deux, quand on joue le deuxième personnage, on est un peu la personne punie. Si c'est pour jouer avec un enfant, ça va. Si c'est pour jouer avec quelqu'un qui est un peu plus dans le jeu vidéo, on s'ennuie un peu quand même.
Alors moi, je réponds juste sur Luigi Mansion. C'est que déjà, il arrive énormément à renouveler son gameplay de niveau en niveau. Et la très bonne idée dans Luigi Mansion, c'est qu'il y a un personnage où tu joues Luigi et l'autre, tu vas jouer un espèce de fantôme. Et ce fantôme-là, ce qui est épais... Luigi, et avec Luigi, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il ne peut pas approcher l'eau. Donc t'as quand même une phase de réflexion, en fait. C'est-à-dire que... Et c'est le seul à pouvoir traverser des grillages, etc. Donc en plus, c'est-à-dire que les deux personnages qu'ils ont mis, c'est pas des personnages qui se rejoignent. Chacun a à peu près son type de pouvoir, quoi.
Ouais, mais justement, Luigi, il est pas utile tout le temps dans le jeu. Du coup, il y a des longues phases de gameplay où la deuxième personne ne sert à rien.
Donc t'es, en fait, t'es en train de me dire que t'es un peu comme Just, toi, les jeux Nintendo, c'est rédhibitoire, quoi.
Non, parce que j'ai adoré ce jeu-là. Et c'est juste, de jouer avec Luigi, c'était pas la meilleure partie. Voilà,
on ne sera pas d'accord là-dessus. Je passe à l'autre news, parce que sinon on va passer toute notre existence sur Luigi Mansion, c'est pas le sujet. Dernière info qui a fait grincer des dents les joueurs, et moi le premier. Donc on a annoncé la Star Wars Outlaw qui sortirait en 2024. J'avais une fois de plus annoncé qu'il sortirait cette année. Là où, une fois de plus, Ubisoft, ils sont très malins. C'est qu'ils le sortent à une période généralement creuse. Et là, ils ont eu la bonne idée de le sortir le 30 août, le jour de mon anniversaire. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous voyez, mais ils avaient déjà sorti Avatar au mois de décembre. Et j'avais dit qu'à l'époque, c'était très bien pensé parce qu'ils avaient évité le bouchon d'octobre. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais ce qui nous a un peu tous énervés, c'est que l'édition Gold a été annoncée au prix de 119,99€. Vous cliquez, vous ne cliquez pas. Qu'est-ce que vous pensez de ces infos? T'as le dire en premier.
Je clique pas et certainement pas sur le bouton précommander, hein, parce que avoir une édition Gold pour jouer 3 jours avant et avoir un bonus de précommande un peu naze qui correspond à des éléments cosmétiques, ça ne m'intéresse pas pour ce prix-là.
French, moi j'ai pas la force de cliquer, mon Jalma. Mais ceci dit, j'ai une petite question. Les éditions Gold à ce tarif-là, c'est quand même habituel pour le coup, c'est pas une spécificité Ubi, ça.
Oui, mais en fait, j'allais voir si vous aviez bossé votre dossier et une fois de plus, je me rends compte que non. C'est qu'en fait, ce qui énerve le pire sur ce prix-là, d'accord, c'est qu'en fait, il y a une mission unique qui est liée à Jabba the Hutt, qui en fait...
Non, mais c'est classique,
non,
ça.
Non, c'est pas classique, justement, dans les quêtes, parce que je vais t'expliquer. C'est que cette mission inédite de Jabba the Hutt, qui est quand même une référence des Star Wars, on est d'accord, on a tous envie, en tant que fan de Star Wars, d'y jouer, c'est qu'on est obligé d'avoir soit l'édition Gold, soit l'édition Ultimate pour avoir accès à cette mission, et cette mission sera disponible dès la sortie du jeu. Et généralement... ce que vous avez dans les jeux, c'est quand vous avez des missions inédites, souvent c'est rajouté dans le Season Pass. Or là, ce qui fait grincer les dents des joueurs, c'est qu'ils nous disent il va falloir qu'on paye plus pour avoir accès à cette mission sur Jabba the Hutt, en fait. Et c'est ça qui énerve les joueurs. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre beaucoup d'argent et pas mettre l'argent dans l'édition de base pour avoir accès à une mission qui va être possible dès le début du jeu, quoi.
Ouais, alors, autant je rejoins Taldir quand elle dit oui, payer autant pour jouer 3 jours avant, ça je trouve ça ridicule, et c'est vrai qu'il n'y a pas que Ubi qui le fait. Vous savez aussi que Ubi, je les porte pas toujours dans mon cœur, ça n'a pas changé aujourd'hui. Mais là, pour le coup, ok, pour le clin d'œil, Jabba the Hutt, je comprends, Jalma, que ça puisse être un manque. Mais il y avait déjà eu de la mission inédite dans AC Valhalla, dans AC Mirage et dans d'autres avant. Bon, et j'ai même souvenir que par la suite, ça leur arrive de les rendre gratuites, donc les ajouter via update au sein de toutes les versions du jeu. Du coup, moi, ça me choque pas ouvertement.
Pour ceux qui ont payé.
Oui, ça me choque pas ouvertement ici.
Bah, après, on est quand même aussi sur des tarifs exorbitants, parce que tu me dis, c'est un peu les tarifs qu'on voit actuellement. Je rappelle que depuis très peu, les jeux sont à 80€. Donc déjà, on a l'augmentation du jeu qui a lieu là. Enfin, 120€, c'est pas donné à toutes les bourses, on va pas se mentir. Et puis autre chose, vous avez sans doute entendu parler de la rumeur. Enfin, pas de la rumeur, pardon, je me reprends. Vous avez sans doute entendu parler de l'ancien président de Blizzard, qui a eu la bonne idée de soumettre sur X... que ce serait intéressant de mettre en place des pourboires pour le jeu vidéo, c'est-à-dire de pouvoir, si le jeu t'a vraiment plu, de payer avec de l'argent supplémentaire, ou non si tu n'as pas envie, pour aider les développeurs. Est-ce que vous, d'accord, du coup je vous pose la question, est-ce que vous seriez prêt à mettre des pourboires, si ça devait avoir lieu un jour, pour récompenser des jeux qui vous ont vraiment plu? Voilà, t'as le dire, on commence.
Bah, moi si c'est des petits jeux créés par des petites équipes, pour soutenir, je me verrais bien faire ce genre de move. Après, pour des grosses équipes qui ont les épaules solides, des grosses équipes et... Enfin, non. pour des jeux comme ça, non.
Et toi, French ?
Bah, moi, oui, sur le principe, mais à la seule condition où je suis certain que ça va bien aux mains des créateurs, des petites mains du jeu vidéo et compagnie. Et pas dans les mains du fameux actionnariat que tu cites, Jelma, assez souvent. Voilà, donc peut-être plus pour les petites prods, comme le disait Taldir, que de la grosse prod, peut-être.
Oui, alors moi je suis pour le coup contre le pouvoir, que ça soit petite ou grosse prod. J'aurais tendance à plutôt favoriser l'aide participative des joueurs lors de la création d'un jeu pour notamment aider les petits studios. On l'avait vu avec l'excellent. Alors, Taldir, elle va nous dire « Ah, le jeu, c'est de la merde », parce que j'ai l'impression qu'elle a envie de nous contredire aujourd'hui, mais Psychonaut 2, c'était de la participation de joueurs, et on avait eu un excellent opus derrière, et je pense qu'il faut peut-être mieux favoriser ça que du pourboire. Mais bon, ça, c'est mon avis.
C'est pareil pour Kingdom Come Deliverance, aussi, le premier.
C'est pareil pour Kingdom Come Deliverance, effectivement. Allez, on s'arrête là sur l'actu, on va passer à la plaidoirie du geek. Alors aujourd'hui dans la plaidoirie du geek, on va ouvrir un débat et là j'espère que vous allez être sans langue de bois et que vous allez vous mettre les deux sur la gueule, je vous le dis clairement. Moi je veux du débat, je veux de l'engueulade, j'en ai marre des podcasts plan-plan, faut qu'on y aille, c'est la guerre des gamers bordel. Donc on y va. Donc la question que je vous pose aujourd'hui c'est, est-ce qu'on peut encore faire confiance aux tests dans les jeux vidéo alors ça c'est vraiment, vous allez sur les sujets que vous voulez. Pas forcément viser quelqu'un en particulier, mais ça intègre tout ce qui est médias, influenceurs, la critique des joueurs. Vous allez sur le terrain que vous avez carte blanche. Moi, je vous dis juste comment m'est venue cette question. C'est que je n'ai pas compris cette année pourquoi Suicide Squad avait été démonté par la presse et par les influenceurs et que le jeu avait été, alors je n'ai pas utilisé le terme adulé, mais apprécié par les commentaires Steam. Et là, j'ai regardé encore il y a peu de temps sur 5500 avis. On est quand même sur des notes plutôt positives. Et j'ai du mal à comprendre cet écart. Et c'est comme ça que cette question m'est venue. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux tests des jeux vidéo ? Alors, la question, c'est toujours pareil. Vous êtes pour, vous êtes contre. Je vous demande d'argumenter chacun en une minute. Et après, on débat. Feu d'artifice. Je vous poserai toutes les questions qui me viennent suite à vos arguments. Et Taldir, c'est la petite nouvelle. Elle connaît pas le débat. Donc, on va commencer par elle. Est-ce que t'es pour ? Est-ce que t'es contre ? On te laisse une minute.
Alors, moi je pense que non, les tests ne sont plus fiables et je vais même aller plus loin, ils l'ont jamais été.
D'accord, développe.
Le jeu vidéo, et je pense que c'est une chose sur laquelle on est tous d'accord ici, c'est une forme d'art. Comment donc on peut juger objectivement une œuvre qui va toucher ou pas certaines personnes plus que d'autres ? Alors, évidemment, certains points objectifs peuvent être évalués, comme la qualité graphisme, l'optimisation, les animations, etc. Mais ces points-là ne sont pas représentatifs de la qualité de l'expérience globale. C'est donc impossible de sortir une note sur 10, sur 20, ce genre de choses. Et je parle même pas des tests pas du tout objectifs comme ceux qui peuvent être sponsorisés de manière plus ou moins transparente. Donc moi j'ai un conseil pour vous, si un jeu vous intéresse, regardez les trailers, regardez du gameplay, regardez vos streamers préférés, mais vous arrêtez pas aux notes qui peuvent sortir dans la presse. Un jeu, ça se joue.
Ok, très bien. On passe à French, tu lui réponds, tu argumentes.
Mais avec plaisir, avec plaisir. Surtout que Taldir, là, on va pas être d'accord, Taldir. On va pas être d'accord. Pourquoi ? Parce que moi, je pose la question d'emblée, hein, d'entrée de jeu. Mais t'as à dire, donc du coup, tu as le temps de jouer à tous les jeux qui t'intéressent ? Puisque les tests, enfin, tu me répondras après. Puisque finalement, les tests ne servent à rien je caricature, mais c'est ce que j'ai un petit peu entendu de ta part. Parce que moi, je me dis souvent, il y a trop de trucs que j'ai envie de jouer, et comme j'arrive pas à tout jouer, bah du coup, les tests, ça me permet de me faire une première idée. Et donc, c'est ça qui est important. Moi, je pense qu'on peut faire confiance, tu répondras après, hein. C'est mon espace. Et je pense qu'on peut faire confiance aux tests de jeux vidéo, mais attention, pas n'importe lesquels. Et c'est ce que je vais essayer de préciser et de nuancer, peut-être. Par exemple, quoi, les tests de jeux vidéo, vous allez les retrouver principalement sur les sites web, dans la presse écrite. Alors, la presse écrite, oui, elle est sinistrée en France, on le sait, dans les jeux vidéo, mais enfin bon, ça existe encore. Les youtubeurs, les twitchers, ça c'est très connu. L'AGG également. Tout ça, ce sont autant d'occasions pour que vous puissiez découvrir des avis. Mais la clé, selon moi, c'est qu'il faut absolument que vous trouviez des chroniqueurs, des testeurs avec lesquels vous êtes en phase avec leur goût. Et il faut surtout éviter tout ce qui va être partenariat déguisé, publicité, les avis biaisés qui peuvent sortir de ce type de certains médias. J'ai pas envie d'en citer, mais je pense que vous en aurez tous en tête en nous écoutant. Et là, je rejoins pas mal Taldir sur ce qu'elle parlait quand elle parlait de publicité, et là, ce sont des très mauvais tests. En revanche, contrairement aux idées reçues, j'ai envie de vous dire, vive la subjectivité. Alors, je vais peut-être pas employer le terme d'art, même si on aurait de quoi faire une émission autour largement, Mais un test de jeu, il faut bien comprendre un truc, c'est pas un test d'aspirateur ou de tondeuse, hein, ou de machine à café par exemple. Hein. Il y a effectivement un ressenti de comment se développe une histoire, comment on va percevoir une histoire, comment les mécaniques de jeu s'assemblent, et ce ressenti, il va se faire pas dans main. Pour moi, une bonne chronique ou un bon test de jeu, c'est quelqu'un qui arrive à vous transmettre, à vous partager cette sensation. Et cette sensation, ensuite, vous en faites ce que vous voulez, et vous allez savoir si ça vous plaît, si ça a des chances de vous plaire ou de ne pas vous plaire. Voilà. D'où le fait qu'il faut absolument lire ou écouter des médias qui nous ressemblent et nous font découvrir des choses. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et surtout, on va quand même se retrouver avec Taldir. Ne jamais oublier que nous sommes notre meilleur testeur. Son avis, son propre avis, bah, c'est toujours le meilleur avis puisque c'est le sien.
Bon, on est d'accord que ta conclusion a été pourrie. Parce qu'en plus, tu te contredis, on va pas se mentir. Tu nous dis, en même temps, on n'a pas le temps de tester et jouer à tout. Et puis tu nous dis juste, il vaut mieux tester tous les jeux. Alors, il faudrait savoir où tu trouves le temps. Bon, bref, j'ai pas relevé ça, ça aurait été à ta dire
de sélectionner, mon cher Jamin.
Non, mais bon, Amandé, il faut être cohérent avec le début et la fin si tu veux bien argumenter. Parce que là, t'aurais eu un client, je peux te dire que là, il allait directement en prison si on était au pénal. Bref, c'est pas le sujet. T'as le dire, est-ce que tu veux lui répondre déjà, avant que j'intervienne?
Oui. Alors, non, je n'ai pas le temps, évidemment, de tester tous les jeux qui m'intéressent. Mais par contre, je fais une sélection moi-même. Par exemple, je prends un exemple au hasard. Atomic Heart, quand le jeu était sorti, moi, sur les trailers et tout, il me plaisait vraiment de fou. Et quand il est sorti, catastrophe, il y avait eu plein de reviews hyper négatives, c'est trop vulgaire, c'est trop... Et en fait, je l'ai fait le jeu, parce que j'en avais envie, il m'attirait. Et si je m'étais arrêtée à ça,
quand même rendu
je serais passée
un jeu de merde,
à côté de ce jeu. J'ai adoré
ouais, bon,
ce
jeu, de merde,
jeu
en plus,
donc je suis très contente de l'avoir fait et de pas m'être arrêtée à ce genre de retour.
Eh bien là, t'aurais peut-être dû, parce que quand tu vois la qualité du jeu intrinsèque, où t'as un monde ouvert vide et que t'as quand même des ennemis qui te pop au cul, on va pas se mentir, à longueur de temps, que ça devient infernal, je trouve que le monde ouvert est passé à côté. Donc là,
ça met de la tension.
Ça met de la tension, mais peut-être que t'aurais dû peut-être lire un peu plus la presse et des avis de youtubeurs, et là, ça aurait été intéressant, quoi.
Mais j'ai aimé cette tension, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'ai adoré, j'aurais pu écrire un papier qui l'encense. C'est le grand oublié de l'année dernière dans les
Awards.
Donc,
t'es en train de nous dire, t'as le dire que toi, tu ne lis jamais de thèse, du coup.
J'en lis pas beaucoup, effectivement. Je me fais beaucoup plus confiance que confiance au test. Après, je me plante des fois. Hein. Des fois, je lance des jeux et je me dis, bon, bah, ça,
ouais, celui-ci, mais alors moi,
c'est pas pour moi.
Je vais te donner un contre-exemple personnellement. Moi, par exemple, l'année dernière, j'attendais à fond Tintin, les cigares du pharaon. Et si je suis, du coup, ton avis, bah oui, mais c'était l'attente et les trailers me plaisaient. Donc, je fais comme toi. Et que je ne serais pas allé me renseigner auprès de la presse, comment j'aurais pu que le jeu était mal optimisé, en fait? Comment j'aurais fait? Je me serais fait piéger. Donc finalement, on se rend bien compte que l'utilité quand même de la... Et je me fais l'avocat de Fred, je t'admets. On se rend bien compte que la presse, les streamers et autres nous permet quand même d'avoir un feedback avant de quand même d'aller sur des jeux qui ne sont pas optimisés, par exemple.
Les tests, des fois, ils proposent des bonnes notes pour des jeux vraiment nazes. Hein. Regardez les notes de Battlefield 2042 et vous verrez, hein, parce que les gens qui ont acheté les jeux suite aux reviews qui encensaient ce jeu, je pense qu'ils ont dû tomber de haut quand même.
French, est-ce que tu as des arguments à apporter là? Je pense que tu as le dire, tu as envie de la contredire sur certains points, comme vous n'êtes pas du tout d'accord là-dessus. Là.
On est en désaccord aussi. On arrive à se retrouver sur quelque chose, mais bon, allez, on va mettre ça de côté. Mais non, mais moi je pense que les tests, ça, il y a un côté, ça nous permet, ça nous suggère des titres qui vont nous intéresser. Mais c'est juste un moyen parmi d'autres. C'est un test quel qu'il soit, que ce soit votre Twitcher préféré, la guerre des gamers au hasard. Ou que ce soit n'importe quel média, comme Gamekult, Actu Gaming, Gamergen et beaucoup d'autres, c'est qu'un moyen parmi d'autres. Tout comme votre collègue de travail, ça sera un moyen, il va peut-être vous parler de tel jeu, peut-être de Battlefield. Battlefield, c'est horrible, voilà, il faut pas que tu l'achètes et tout. Et ça va être au même titre que, je sais pas moi, vos copains, vos potes, quand vous allez prendre l'apéro, par exemple, et tout, vont vous suggérer des jeux, parfois. Et vous allez être libre de vous y intéresser, ou au contraire, de dire « Non, c'est pas pour moi. Oula, Jean-Michel, Pokémon truc, j'ai passé l'âge et compagnie. » Bon, peu importe. Mais moi, je pense que la vraie bonne presse, elle est capable de mettre en avant des vrais titres qui en ont besoin. En tout cas, c'est mon côté idéaliste qui veut ça. Et ça, je le trouve pas forcément ailleurs. C'est ça, moi, que j'ai envie de défendre, t'as le dire.
Moi, ce que j'aime bien dans la presse, par exemple, c'est des gens qui vont nous faire connaître des jeux qui sortent et qui sont un peu hors des sentiers battus. Donc qui vont pas forcément être présentés dans les grosses conférences et du coup qui vont nous faire découvrir des jeux qu'on n'aurait jamais connus sinon. Sans forcément de test, mais juste montrer le trailer, en parler, montrer du gameplay et après à chacun de se faire son avis. Ça, c'est plus quelque chose que j'apprécie, plus que vraiment la presse à proprement parler.
Concrètement, on pourrait résumer avec Final Fantasy VII Rebirth, c'est normal de faire des chroniques dessus, mais en soi, il n'a pas besoin d'une exposition médiatique, a priori. Par contre, un Cocoon, par exemple, même si je sais que Jalmar aura à en redire, un Cocoon ou même un Dave the Diver, quoique il a très très bien marché par la suite, eux ont peut-être besoin d'un petit peu plus de soutien.
Plein de jeux, bah, par exemple, comme le Final Fantasy Rebirth, là, qui a eu plein de reviews extrêmement positives, alors que je trouve, de mon humble avis, il n'aurait pas forcément mérité les notes de proche de la perfection qu'il a eu. Je trouve qu'il y a eu... Il y a plein de choses à dire sur ce jeu et qui ne sont pas du tout ressorties dans les tests.
Oui, parce que là, moi, je ne suis quand même pas d'accord avec vous. C'est quand vous me dites, les tests, c'est subjectif, c'est compliqué dans la presse de s'y retrouver. Moi, là où je ne vous rejoins pas, pour moi, va se retrouver la subjectivité. Ça va être sur le ressenti de l'histoire. Après, soit tu apprécies l'histoire, soit tu ne l'apprécies pas. Mais il y a un truc où tu es forcément objectif sur différents points. C'est-à-dire qu'un jeu qui manque de rythme dans l'histoire, ça, tu peux être objectif pour le ressentir. Un jeu qui a un gameplay rythmé ou non, ça t'es quand même capable de l'écrire sur un papier. Et ça, c'est quand même des ressentis. Moi, je suis désolé, vous parlez de Final Fantasy VII Rebirth. Effectivement, je pense qu'il a été trop encensé par la presse. Et les peu de retours que j'ai, c'est que j'entends que ce jeu manque de rythme, en fait. Me dis pas que la presse n'était pas capable ça, de le mettre. Moi, je joue actuellement sur FF7 Remake, je trouve qu'il manque déjà de rythme. Donc, je vois pas, même s'ils ont peut-être amélioré le point sur Rebirth, c'est une critique que t'as faite. Ce que je veux dire par là, ces critiques objectives-là, on doit être capable de les retrouver dans la presse. La question que je vous pose, c'est est-ce que la presse est encore capable d'être objective, en fait? Est-ce que je veux mettre par là, et même les streamers, ou les mêmes testeurs? Parce qu'on sait aussi, on va pas se mentir, qu'il y a des cadeaux des studios, qu'il y a des clés derrière. Est-ce que ça ne influence pas la presse? Je vous laisse répondre à ça.
Bah, nous, en tout cas, ça ne nous influence
non,
pas.
Non, je ne demande pas de parler de la GG, je parle de la presse, là. Ne détourne pas la question en parlant de nous.
Si on parle de médias au niveau général, alors non, pour te répondre, le fait qu'il y ait des prêts d'objets, voire parfois des objets que tu peux garder, que tu vas chroniquer, ça c'est pas nouveau. C'est le cas, dans les tests de smartphones où il y a des prêts et parfois même des appareils que tu peux garder. Les fameuses clés de jeux vidéo que tu cites, qu'on peut recevoir en amont d'un jeu qu'on reçoit parfois un mois, parfois deux mois avant la sortie officielle, ça, c'est rare, mais ça peut arriver. Bon, est-ce que ça a un impact sur la presse, comme tu es en train de le dire? Franchement, ça, je ne crois pas. Moi, je suis plus embêté sur un autre sujet, mais qui est un petit peu en dehors de notre débat, quand il y a des cadeaux de presse supplémentaires. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet.
Ou peut-être même certaines chèques versés. Hein. Attends, ça peut aller loin. Hein.
Peut-être, ouais. Même si il y a plus un impact au niveau des régies publicitaires. C'est-à-dire, tel éditeur va peut-être, si une chronique, un test est très mauvais sur un site, éventuellement, un éditeur pourra décider de ne plus aller acheter des espaces publicitaires sur tel ou tel site. Ça, c'est des pratiques assez connues, plutôt que le chèque. Moi, ce qui me plaît dans la presse, et ce que je recherche dans la presse, c'est une sincérité d'avis.
Oui, mais est-ce que la presse est encore sincère de nos jours?
Moi, je pense que oui. Enfin, après, il faut cibler. Comme toi, tu vas peut-être pas aller lire tel ou tel média, et tu vas en préférer d'autres. Tout simplement, il faut aller choisir. Il y en a certains qui sont à proscrire, il faut absolument pas aller les écouter. S'il y a une proposition commerciale, un partenariat commercial qui a été fait avec quel que soit le YouTuber, si le YouTuber est intègre, c'est éventuellement un partenariat sur un jeu qu'il a aimé, donc dans ce cas-là, bon, il a pris des sous et puis il va développer son truc et puis il va le défendre, mais il va le défendre sincèrement. Si il est un peu borderline au niveau de sa sincérité, bah, potentiellement, il s'en fout total, c'est juste pour participer à l'opération. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est la question de la sincérité, parce que pour moi, il faut être subjectif, au contraire.
T'as le dire, je te laisse répondre.
Moi, j'ai eu un problème récemment avec le jeu Skull and Bones, par exemple. Ils ont fait ils ont fait appel à beaucoup de YouTubers, mais qui sont pas forcément de l'univers du gaming, pour parler de leur jeu. Donc, des gens qui n'ont pas forcément suffisamment de recul sur l'univers du jeu vidéo, qui n'ont pas forcément de comparatif, ils les ont invités, alors je ne sais plus où, sur une île en Thaïlande, pour encenser leur jeu. Et ce type de pratique, pour moi, c'est pas du tout intègre. Parce que le YouTuber, lui, il part en vacances, il va être content. Il n'est pas dans le milieu du jeu vidéo, donc il n'est pas vraiment considéré comme un vrai testeur. Mais par contre, le capital sympathie du YouTuber qu'on suit pour X ou Y raison fait que ça va nous donner envie d'acheter un jeu pour des mauvaises raisons.
Oui, non mais la raison, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi quand même des streamers et autres qui finalement deviennent des influenceurs. Donc c'est ça, est-ce qu'on peut encore faire confiance à ces gens-là en fait? Puis il y a une autre question que vous n'avez pas soulevée. À un moment donné, on le sait aussi qu'il y a des clauses qui sont signées, que nous on respecte quand on sort certaines clés, c'est qu'on a des embargos. À un moment donné, les embargos, Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné aussi lever les embargos, c'est-à-dire pour prévenir les gens suffisamment avant que le jeu soit bon? Non mais à un moment donné les gars, il ne faut pas se leurrer, l'embargo ça ne va pas te sauver un jeu qui est bon ou mauvais quoi. À un moment donné que tu testes le jeu une semaine avant, que tu l'info... Généralement en plus on le sait, quand un embargo a lieu et que c'est 12 heures avant la sortie officielle du jeu, généralement, sauf surprise, le jeu n'est pas très bon quand même derrière quoi.
C'est donc, pas bon signe.
Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné que le studio joue aussi le jeu avec la presse en levant les embargos? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là quoi?
Moi, je te réponds de comment j'en pense. Et effectivement, quand un test sort quelques jours, même une semaine avant la sortie du jeu, en général, c'est que l'éditeur est confiant. Voilà. De mémoire, pour God of War Ragnarok, c'était arrivé. Sony, souvent, ouais. ça arrive assez souvent, par exemple. Il y en a d'autres, hein, c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Voilà, en général, c'est qu'ils sont confiants. Donc effectivement, là, la question ne se pose pas trop par rapport à ce que tu cites, Jalma. Après, il faut comprendre aussi autre chose. Quand tu reçois le produit par les relations presse ou par l'éditeur, l'éditeur il a aussi envie d'être maître de sa communication. C'est-à-dire qu'un test qui sort au moment où le jeu sort pour tout le monde, pour le grand public, c'est pas forcément synonyme de catastrophe. Après, oui, je sais que tu auras le contre-argument, des catastrophes, on en a eu un paquet, on en aura encore.
Bah, pour moi, l'embargo, on peut pas le retirer. Il faut que les tests sortent tous en même temps. Parce que sinon, évidemment, la première personne qui aura la clé va jouer 10 minutes, écrire un article un peu bidon, et ce sera le premier, il aura le plus de clics, et donc il aura réussi un peu son coup. Mais par contre, effectivement, il faut se rendre compte que quand l'embargo est levé 12 heures, comme tu dis, avant la sortie, c'est pas bon signe, et là, faut se méfier.
Oui, non, mais parce que voilà, moi je reviens à l'histoire d'embargo, je pense qu'il faut quand même un délai suffisant avant que le jeu sorte pour justement avoir quand même les tests suffisamment qui sortent en amont, etc. Maintenant, on sait qu'il y a quand même une influence des studios. Là où ça a quand même changé, c'est qu'il y a tellement d'argent sur le jeu vidéo et que derrière, ça peut avoir des conséquences financières gravissimes. Est-ce qu'on ne pourrait pas se penser qu'à un moment donné, il y a peut-être un soudoiement de la presse et autres, quoi. Enfin, faut que la question, elle se pose quand même de plus en plus. Nous, on l'a déjà vu en interne. À un moment donné, on va aussi se le dire, les gars. On a déjà eu une ou deux clés de jeu où on n'a pas forcément été tendre sur le jeu derrière. Je peux dire que pour récupérer une autre clé de l'éditeur derrière, on en a chié, quoi. Donc en plus, on s'est déjà fait boycotter. Non, mais à un moment donné, il faut le dire aux auditeurs comment ça se passe.
C'est déjà arrivé, hein.
Ouais. Mais ouais. Et est-ce que du coup, la presse, certaines presses, on va dire, peut-être point fort, je vais pas parler de jeuxvideo.com parce qu'ils sont établis depuis des années, mais des presses plus petites ou des streamers ou des influenceurs qui veulent percer mais qui n'ont pas une grosse communauté, est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas être un peu plus tendres parce qu'on sait ce qui fait vendre aussi les vidéos sur YouTube. C'est de les sortir en moment de la hype qu'il y a sur Twitter, etc. Tu ne peux pas attendre de sortir ton truc deux mois après. Mais si qu'à un moment donné, tu commences à être critique sur les jeux, tu sais que tu auras moins de clés, est-ce que du coup, tu n'es pas un peu plus sympa derrière avec le jeu? Je vous pose la question, quoi.
Bah, c'est sûr que quand on est petit créateur et qu'on commence à recevoir, on va dire, des cadeaux, des voyages, des clés gratuites, on peut être tenté, je pense, de dire du bien du jeu derrière. Après, c'est pour ça qu'il faut, je pense, choisir les youtubeurs, les youtubeurs, streamers, etc., qu'on suit, faire une bonne sélection assez drastique. Et si on est d'accord avec eux sur certains jeux, après, on ne pourra jamais être d'accord avec tout. Mais là, on peut commencer à leur faire confiance. Et il faut aussi bien vérifier qu'il y ait la mention de partenariat rémunéré ou autre, qui est maintenant obligatoire en France en tout cas. Pour savoir si la personne en tout cas a été rémunérée ou a reçu quelque chose gratuitement.
Puis il y a quand même l'exemple, moi j'en parlais tout à l'heure, de Suicide Squad, je suis désolé, mais le nombre d'influenceurs, de testeurs qui ont démonté le jeu sur X parce que quand même les clés avaient été envoyées très tardivement par le studio, c'était compliqué de trouver un test objectif, j'en ai trouvé un, et finalement, moi j'ai pas fait le jeu, donc honnêtement je vais pas vous dire que le jeu est bon ou mauvais, je vous dis honnêtement je l'ai pas fait. Mais ce que j'avais lu d'une presse qui me paraissait objective, que je ne lis pas régulièrement, c'est qu'il disait que le jeu manquait de rythme et qu'il avait tendance un peu répétitive. Mais qu'au-delà de ça, c'était très fun à jouer gameplay en main. Quand tu lisais ce que mettaient les influenceurs qui n'ont pas les clés, ils ont déboîté le jeu. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils n'ont pas démonté le jeu parce qu'ils ont été vexés de ne pas avoir de clés? Là, la question de l'objectivité, je pense, elle se pose, quoi.
Bah, dans ce cas-là, c'est un move pas très malin, parce que je pense pas que ce soit en démontant un jeu que ensuite les studios vont se dire « Oh, bah, si je leur envoyais des clés !» Donc c'est plus se mettre des bâtons dans les roues que de faire ça comme move. Mais par contre, ça fait du clic, parce que ça critique, ça fait des titres de vidéos « Oh mon Dieu, ce jeu est terrible !» Et hop, ça fait plein de vues.
Ouais, bah, je vous rejoins tout à fait là-dessus. J'ai pas non plus joué à Suicide Squad, hein, mais je trouve ça hyper puéril. C'est-à-dire que si tu reçois pas ta clé, tu reçois pas les keys d'attention de l'éditeur, ah bah du coup je vais boycotter sur cette base-là. Mais non, mais c'est débile. Soyons clairs, c'est totalement débile. Il faut prendre le jeu pour ce qu'il est, et il faut en parler avec son cœur et avec la manière dont on l'a ressenti. C'est ça qui est important. Moi je sais pas, honnêtement, moi c'est pas un titre qui m'intéresse particulièrement. Mais ceci dit, je n'aime pas la mauvaise foi quand tu fais une chronique, quand tu partages les choses avec des auditeurs, avec des spectateurs et compagnie.
C'est marrant parce qu'au sein de la GIE, tu le fais pourtant.
Oui, mais moins que toi, je crois.
Ah, mais moi, je ne suis pas de mauvaise foi dans la GIE. Je dis vraiment ce que je pense. Après, soit on adhère à ce que je dis, soit on n'adhère pas. Et je pense qu'en nous écoutant, bon, j'aime pas faire ça, vendre un peu notre boutique. Mais comme on est tous des personnes un peu différentes ici, généralement, vous aurez un avis objectif du jeu. Parce que de toute façon, peu importe le jeu qu'on vous met, il y en a toujours un qui sera pas d'accord avec le reste, mais au moins ça vous permet de voir les points noirs du jeu et les points blancs du jeu, on va dire, parce que voilà. Mais c'est juste ça qui est l'avantage de la guerre d'amour, parce qu'il n'y a jamais un jeu où on arrive à se mettre d'accord. Et je peux vous dire un truc, c'est que même si on a des clés, déjà on essaie de vous le dire en podcast, et généralement quand on vous le dit pas, c'est qu'on zappe, on va pas se mentir. Et nous, quand on a des clés, et on l'a déjà payé plusieurs fois, on l'a déjà critiqué des jeux parce que vraiment c'était de la merde. Derrière, on n'a pas eu les clés, et derrière on fait des mails pour avoir d'autres clés, et on a que dalle, on s'est pris des gros fucks. Alors je vais vous dire, voilà, et je vais vous dire, si un jour on a la chance de grossir, on restera pareil. Et celui qui sera pas objectif dans ce putain de podcast, il dégagera. Voilà comment on fonctionne, nous.
Voilà, quand Atomic Heart nous a déplu, on l'a dit.
Voilà.
Et quand il a plu, surtout, on le dit.
Oui, bon, on va pas revenir sur ce jeu, mais voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je trouve maintenant de faire confiance à la presse ou à des influenceurs. Moi, j'ai toujours le sentiment, quand j'écoute des gens, que je me dis derrière, mais qu'est-ce que ça cache ? Est-ce qu'il y a une clé ? Est-ce qu'il y a machin, etc. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas suivre aussi l'argument de Taldir, qui, je pense, vit dans le monde des bénis oui-oui, des bisounours, en disant, ah bah oui, on va regarder un simple trailer, puis on va acheter le jeu, puis on va se faire son propre avis. Finalement, c'est peut-être l'intérêt du Game Pass. Au moins, tu peux le tester et tu payes qu'un abonnement. C'est peut-être ça la solution à l'avenir. Mais je suis désolé, quand tu regardes les trailers, on te montre toujours le meilleur et on te montre pas les trucs sous-jacents. Et en fait, on ne peut plus faire confiance aux joueurs parce qu'il y a des fois, et French, il tombe toujours dans ce piège-là. Des fois, vous avez tellement de hype autour d'un jeu que vous n'avez aucun recul. Et FF7 Rebirth, c'est exactement le cas. Et c'est pour ça qu'on va le podcaster cette année bien ultérieurement. Parce que moi, j'ai pas encore eu le temps de le lancer. Mais je me dis, des fois, je me dis, quand je vous écoute, il y a tellement de hype autour du jeu. Putain, les gars, ça cache un truc. À moins qu'ils ont fait un GOTY, un truc de génie. Voilà. Et c'est même au niveau des jeux, on a du mal à s'y retrouver à un moment donné. Toi. On ne sait plus à qui faire confiance, quoi.
Mais c'est ça le problème. Et effectivement, c'est peut-être la clé qu'il nous faut à tous trouver, tous collectivement. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la valeur du titre, gros budget, par exemple, ou grosse hype, pour reprendre ce que tu cites, dans le cas de FF, puisqu'on en parlait, eh ben, le problème, c'est que t'as beau avoir un très très gros titre, potentiellement, est-ce que ce gros titre peut plaire à tout le monde ? Et la réponse, à mon avis, est bien entendu non. C'est-à-dire que n'importe quel gros titre ne va pas plaire de manière uniforme à tout le monde. Donc il y a forcément d'autres avis qu'on peut raconter, qui sont tout aussi justes qu'un avis qui encense éventuellement tel ou tel titre. Et donc c'est là que ça devient très important d'avoir plusieurs profils et plusieurs personnes qui mettent en évidence plusieurs choses quand c'est possible.
Vas-y, t'as le dire.
Bah, par exemple, pour rebondir sur ce que tu dis, sur Metacritic, donc qui reprend un peu les notes et qui en sort, on ne sait pas trop comment, mais une note globale, il y a quand même Zelda Breath of the Wild qui est 6e. Alors, il a amené plein de choses incroyables, on est d'accord, mais en termes d'expérience, c'est quand même franchement vide.
Je te rejoins complètement. Tu vois, c'est la première fois aux 50 minutes de podcast qu'on est d'accord.
Ah, et bah tu vois,
moi,
on y arrive.
Breath of the Wild, c'est l'arnaque du siècle, même s'il a fait une avancée dans les mondes ouverts.
Et pour moi, c'est l'un des très grands jeux qui existent.
Oui, mais
comme
tu ne peux pas reconnaître.
Vous avez
plusieurs avis. Je pose la question, French. Là, tu vois, on va vraiment être dans le truc. Est-ce que tu peux reconnaître et objectivement que Zelda Breath of the Wild est quand même relativement vide en monde ouvert ?
Oui, mais c'est voulu.
Oui, mais
c'est
voulu.
Tu le reconnais. Mais du coup, c'est pénible.
Non seulement techniquement, mais aussi pour le lore et pour l'univers qui est présenté. Ça ne pouvait pas être autrement. Death Stranding, c'est similaire. Arrêtez.
Maintenant, autre question. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir dans la presse spécialisée, comme ça se fait un petit peu dans le football ? Excusez-moi le parallèle. Mais vous savez, vous avez des spécialistes de foot qui vont vous analyser le championnat anglais, le championnat espagnol, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi retrouver dans la presse des journalistes, mais qui soient spécialisés dans une catégorie de jeu ? Par exemple, catégorie monde ouvert, catégorie RPG, etc. Mais vraiment spécialisés, que ça soit dit à chaque fois. Est-ce que ça ne serait pas aussi une solution ? Comme ça, un joueur qui apprécie les sous-likes, par exemple, etc., les souls, il peut se référer à de la presse spécialisée dans les sous-likes sous les souls et du coup avoir un avis objectif. Comme ça, par exemple, un certain Rise of the Ronin, ça lui permettrait d'avoir un meilleur recul. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là ?
Bah, avec les youtubeurs, il y a de plus en plus ce genre de choses qui est mis en place parce qu'eux vont se concentrer sur ce qu'eux connaissent et ont envie de couvrir. Donc il y a, je le vois sur YouTube, en tout cas, je consomme pas trop Twitch, mais sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui vont se spécialiser dans un style. Après, est-ce que c'est considéré comme de la presse ? Bon, en tout cas, ils font des couvertures de jeux et ils en parlent. Mais je trouve que ça, c'est plutôt une bonne idée de se spécialiser dans un thème. Après, encore une fois, il y aura des choses qui vont être du ressenti et de toute façon qui vont plaire ou pas à quelqu'un ou de manière différente.
French, oui, oui et non là-dessus. J'ai envie de te suivre parce que ça me paraît très intéressant ce que vous évoquez là, Jalma et Taldir. Mais non, parce que si tu veux une analyse poussée d'un gameplay par exemple, d'un STR, un jeu de stratégie, ou d'un FPS, pour parler de genres qui sont très connus et très codifiés, évidemment ça peut valoir le coup. Le truc c'est que si tu es hyper spécialiste, tu ne fais que parler à ta niche. Alors ça peut être une grande niche bien sûr, mais quelque part je trouve ça un peu limitant. C'est pour ça que j'aime bien qu'il y ait plus de profils qui parlent de leur expérience de jeu. Et ça va être peut-être parfois un peu des conneries qui vont être racontées, mais ça devient
très
important.
Parce que nous qui touchons un peu à tout, ça te permettrait d'avoir des journalistes spécialisés dans tel thème, et au moins tu verras ce qu'ils en pensent avant d'acheter le jeu. Après, il y a aussi une autre chose que vous n'avez pas évoquée, mais je pense que là, pour qu'on se fasse notre propre avis, c'est qu'il y a de plus en plus, finalement, de démos de jeux. Moi, je vais prendre juste l'exemple de Stellar Blade. Alors moi, ça m'a fait rire sur notre Discord, on m'a dit « Ah ouais, ben Jalma, je m'attendais pas à ce que tu joues à ce genre de jeu, quoi, tu vois ?» Alors déjà, les gars, avant de me dire « Je joue à ce genre de jeu », il fallait déjà que je teste le jeu pour voir vers quoi ça pouvait potentiellement s'orienter. Et à ma grande surprise, ou à l'air de s'orienter Stellar Blade, je mets des grands guillemets parce que c'est juste une démo d'humeur, c'est que ça part beaucoup sur du Soul-like, que j'aurais pas pensé pour le coup. Et voyez, donc finalement on se retrouve un peu dans les genres de jeux que j'aime quoi. Donc est-ce qu'il faudrait pas augmenter un peu les démos ? On va voir si French est de bonne foi là-dessus, parce qu'il va nous dire que la démo d'FF16 était incroyable et qu'il a détesté le jeu au final, mais bon.
Oui, oui, c'est vrai, pour le cas d'FF16 que tu cites, j'avais adoré la démo et c'est vrai que le jeu complet m'a beaucoup déçu. Surtout parce que l'histoire et le développement de l'histoire m'ont particulièrement laissé de côté, j'ai trouvé ça assez moyen, voire médiocre. Voilà, et ça je pouvais pas le déceler avec la démo, par exemple. Donc une démo, on sait que c'est du budget pour un studio. C'est-à-dire que c'est de l'investissement spécifique pour sortir la démo. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un budget que les studios veulent allouer à ce type d'exercice. Sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de stores. Si vous achetez votre jeu en numérique, vous avez souvent la possibilité, suivant les stores, de vous faire rembourser sans condition si vous avez joué moins de 2 heures, par exemple.
Mais ça revient à la démo, finalement.
Ça revient à la démo, on peut jouer les 2 premières heures de jeu. Après, ça dépend des lesquels vous allez acheter votre jeu. Et ça, c'est un moyen indirect de pouvoir tester. Et puis, il y a aussi les essais officiels. Hein. Microsoft fait ça, Sony aussi, Steam aussi, certains week-ends, où vous allez pouvoir jouer tant et tant d'heures à tel jeu sans le payer tout court. Et vous allez aussi pouvoir vous donner une petite idée. Mais là, je vous rejoins tous les deux. Taldir l'a très bien dit plus tôt, et toi, Jalma, tu l'as très bien dit maintenant, en citant le Game Pass un tout petit peu plus tôt aussi. C'est vrai, quand on a possibilité de jouer un peu au jeu, bah, tout de suite, on va savoir si ça va nous plaire ou pas, enfin en théorie.
Bah moi les démos je suis complètement pour. Stellar Blade, comme t'en parlais tout à l'heure, j'ai adoré. Et ça peut permettre à des gens qui étaient attirés que par la plastique des protagonistes de se rendre compte que le gameplay est un petit peu plus complexe et exigeant. Et je pense que ça peut amener vers un acte d'achat ou plutôt justement de les stopper direct. Après, là c'était le début du jeu. À voir si tout le jeu est à la hauteur de ce moment-là qu'ils ont spécifiquement choisi pour la démo.
Donc affaire à suivre pour Stellar Blade. Donc, nous, on est en négociation en interne pour savoir si on va le traiter ou pas. Moi, j'essaye un peu de pousser, on va pas se mentir. D'autres sont plus réticents, on en reparlera. Bah écoutez, on va conclure là-dessus. Donc on l'a bien compris, toi Fred, tu es plutôt pour une presse, continuer à lire la presse et se renseigner. Toi, t'as le dire, t'es plutôt contre, en pensant que le mieux, c'est de se faire un avis par soi-même. Moi, j'avoue que je me retrouve un peu entre les deux, donc je vais pas donner de points aujourd'hui, tu vois. Joss, vous aurez donné un point, parce qu'en vrai, en termes de subjectivité, on est à fond. Moi, je vais pas vous donner de points, parce que je pense que y a des arguments qui sont bien chez chacun d'entre vous. Moi, ce que j'aurais aussi tendance à apporter comme dernier conseil, c'est quand même de suivre les studios. C'est-à-dire que généralement, quand vous renseignez bien sur le parcours des studios, des jeux qu'ils ont déjà sortis, généralement, vous n'avez pas trop de mauvaises surprises derrière, quand même. C'est quand même un avantage, quoi. Ou en tout cas, de suivre aussi l'éditeur qu'il y a derrière, quoi. Par exemple, si on prend l'éditeur Megroid et je le mets une petite torpille, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est qu'on sait qu'il y a un jeu sur 4 qui est bien, quoi. Enfin, en tout cas, c'était le cas en 2023. Et ça ne m'empêche pas d'attendre des jeux en 2024, comme un certain Fourmi, qui me rend très curieux. Mais attention, Microlite à l'édition. Vous avez une dernière chose à dire là-dessus? Une petite conclusion, un truc?
Faites vos jeux, testez, regardez, et plantez-vous, ça arrive, c'est pas grave.
Tellement bien dit, comment tu veux rebondir? Lisez les tests, mais surtout, faites-vous vos propres avis par-dessus.
En fait, ce que vous voulez dire, t'as le dire en sous-jacent, si je fais la traduction populaire, si vous êtes prêt à perdre 80 balles régulièrement, n'hésitez pas, et de toute façon, elle vous les remboursera, on vous donnera son adresse, quoi. Allez, on passe tout de suite au coffre maudit.
C'est l'heure d'ouvrir le coffre maudit.
Bon alors, le coffre maudit, je rappelle une fois de plus, mais si vous nous écoutez, vous savez ce que c'est. C'est une rubrique décomplexée et à chaque fois, on pourra vous proposer des rubriques différentes. Ça pourra être des quiz, des questions mystères, des débats, etc., des blind tests. Et aujourd'hui, on vous propose une rubrique inédite quand j'ai envie d'inaugurer parce que Joss n'est pas là. Donc moi, j'avais envie d'aller un peu dans le débat décomplexé, c'est la question indiscrète. Alors la question indiscrète, c'est quoi? C'est qu'on vous laisse la possibilité de poser une question à un développeur, à un éditeur, à un constructeur et même à des politiques. En France, je ne profite pas d'avoir des questions aux politiques pour demander une baisse d'impôts. Hein. C'est pas possible, hein. C'est pas le sujet d'ici, on parlera bien jeux vidéo. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien de quoi on va parler. C'est par exemple si vous avez eu l'idée de poser une question à Warner Bros. On aurait pu par exemple leur poser la question: pourquoi voulez-vous vous entêter à produire des jeux-services après l'échec de Suicide Squad et le succès de Hogwarts Legacy? Hein, c'est une question qu'on aurait pu leur poser, ça aurait été intéressant. C'est parti, vous avez bien compris la rubrique les gars?
Parfaitement.
Eh ben c'est parti, on y va. Alors, si vous aviez une question à poser à Naughty Dog, je rappelle que Naughty Dog, c'est ceux qui ont développé les jeux The Last of Us notamment. T'as le dire, on te laisse commencer.
Naughty Dog, après le review bombing super négatif au vu des thèmes abordés dans The Last of Us Partie 2, allez-vous continuer à aborder des thèmes sensibles ou allez-vous suivre une ligne directrice plus lisse?
J'ai rien compris à la question. Mais allez.
Ah, j'ai beaucoup aimé.
Voilà, allez French, à toi. Vous avez le droit de réagir entre vous, hein, si vous voulez.
Non, mais moi j'ai beaucoup aimé parce que, bon, on est que deux à avoir fini Last of Us par deux, mais je vois très très bien pourquoi, la raison de la question de Taldir, et ça me...
Bon, après la question, elle pourrait même la poser pour tous les A, c'est est-ce que vous allez oser, avec les enjeux économiques qu'il y a derrière, continuer à aller sur des sujets assez sensibles qui font réagir sur les réseaux, quoi.
Oui, c'est ça, mais eux, ils prennent quand même, ils ont pris en tout cas pour le 2, à peu près tous les sujets polémiques. Ils les ont mis dedans, ils se sont pris des review bombing à 0 sur 10 sur tous les sites où les gens pouvaient mettre des notes. Et j'espère en tout cas qu'ils vont continuer là-dedans et pas justement devenir plus lisse.
Moi je trouve ça passionnant, et c'est parce que ce qui me plaît, c'est quand tu as un budget et quand tu fais une grande œuvre créative, j'ai envie que tu abordes aussi des petites choses à pas polisser, quoi, des petites choses qui viennent un petit peu... qui ne te caressent pas toujours dans le sens du poil. Et c'est ce que fait Last of Us Part 2. Ça me paraît quand même assez rare pour ce type de prod, et c'est le genre de truc que je veux soutenir aussi. Alors, moi, ma question, c'est autre chose. C'est, pour Naughty Dog, ça serait... avec votre expertise vidéoludique, pourquoi ne pas travailler plus sur des AA hyper quali qui auraient l'avantage de se dev beaucoup plus vite et de sortir plus rapidement?
Ok, alors moi, je vais leur poser une question un petit peu plus simple que vous. C'est, est-ce que vous comptez encore nous sortir un énième remaster remake sur votre licence The Last of Us, ou est-ce qu'un jour vous allez nous balancer une nouvelle licence? Voilà, bon, je pense pas qu'ils nous répondront, mais au moins on va continuer à balancer des bouteilles, peut-être qu'avec de la chance on va avoir à un moment donné une réponse. Allez,
pour leur envoyer.
Maintenant, si vous aviez une question pour Shuntaro, je suis désolé de la prononciation japonaise, Shuntaro Furukawa. Un petit coucou à Sam qui s'est remis au japonais, hein. Un Sam qui est une passionnée d'Elden Ring. Je pense qu'elle aurait fait une meilleure prononciation que moi. Donc, qui est le président de Nintendo, hein. Donc, on voit bien que Taldir n'aime pas trop Nintendo. Donc, on va commencer par elle. Qu'est-ce que tu lui poserais comme question, quoi?
Moi, c'est quand est-ce que vous allez nous sortir de nouveaux personnages?
Mais ils sortent des nouveaux personnages.
Pas suffisamment, ils tournent trop autour des mêmes licences.
Oui, mais regarde, on a eu quand même cette année, on va être traité en podcast, on n'a juste pas eu le temps, mais les jeux sont déjà là, Princess Peach. Certes, c'est un personnage qui était déjà existant, mais ils le mettent en personnage principal et ils le mettent comme l'héroïne qui n'était pas arrivée.
Ça, c'est très bien, mais des nouveaux, ce serait pas mal aussi quand même.
Ok, Fred, est-ce que t'as une question?
C'est clair qu'ils sont beaucoup sur le patrimoine pour répondre à ta...
Ouais, mais ils arrivent à renouveler leur licence, et pour le coup, ils ont réussi à le faire avec Zelda, ils arrivent à le faire avec Super Mario Wonder, donc je vous trouve quand même dur. Hein. Alors comment...
Tu sais que je le pense aussi, ça, Jalma, mais je comprends la question de Taldir.
Je vais te dire, entre un Spider-Man 1 et Spider-Man 2, il y a une prise de risque qui est quand même minime, alors que eux, à l'inverse, en exploitant leur licence, ils arrivent à prendre quand même des gros risques et c'est payant à chaque fois, quoi.
C'est vrai. Bah écoute, moi, en parlant de renouveau de personnage, bah ça sera pas le cas. Moi, je suis un grand fan de Kid Icarus, et en particulier de l'épisode Uprising, qui était sorti sur la 3DS en 2012, donc autant dire une éternité. Je suis orphelin aujourd'hui. À quand un nouveau Kid Icarus? J'en veux un.
Bah moi, en parlant de ces licences cultes que j'aimerais bien revoir sur le devant de la scène, c'est quand est-ce que vous allez annoncer le prochain Donkey Kong et Diddy Kong, quoi. Voilà, ça serait intéressant aussi de revoir ça, parce que moi, je trouve que c'était quand même une grande licence, et... Et parfois, t'as lire, c'est bien aussi de faire des confitures dans des vieux pots. Voilà, jeter les...
De jouer sur la nostalgie, sur la facilité, bravo.
Non, parce qu'ils renouvellent leur licence. Tiens, on aura un débat là-dessus un jour, je pense, avec elle. Hein, sur est-ce qu'il vaut mieux proposer des anciennes licences avec du renouveau ou se lancer de temps en temps dans des nouvelles licences. Allez,
très bien ça.
Ce serait intéressant.
Tu vois, il y a des idées qui me viennent comme ça en débat. On devrait prendre des notes parce qu'après, on est comme des couillons, nous, le lundi, parce qu'on vous le dit, on vous dit tout. La différence de Just, moi, je vous dis tout. Tous les lundis, on fait des réunions hebdomadaires et on a des sujets, on se dit de quoi on va parler, etc. Sauf que des fois, on vous dit en podcast qu'on va le faire et on zappe derrière parce qu'on a une mémoire de poisson rouge. Bref, c'est pas le sujet. On revient sur Xbox. Maintenant, une question à Phil Spencer. Qu'est-ce que vous lui poserez, French?
Alors moi, la question que je lui poserai par rapport à l'actu que vous avez tous suivi, Microsoft, quand est-ce que vous allez totalement assumer d'être un grand éditeur et sortir tous vos jeux sur l'ensemble des machines du marché?
Taldir.
Vous êtes très loin de l'objectif d'abonnés sur le Game Pass, alors pour atteindre les 100 millions, l'objectif qui était fixé, comptez-vous faire plus de communication sur cette offre?
J'ai l'impression d'être à la fac déco là, on te pose une question avec des choix multiples en fait, et tu sais pas quoi répondre, ouais, à ta copie, et tu sens que tu vas sortir avec un 5 sur 1. Elle pose des questions depuis tout à l'heure, j'en comprends une sur deux, ça me fait flipper quoi. moi ça rejoint un peu ce qu'a dit Fred, ça, je la pose quand même, et c'est exactement la question. Ça vraiment, elle ne se ressemble, mais tant pis. C'est quand est-ce que vous allez être enfin honnête avec les joueurs et dévoiler votre véritable stratégie d'entreprise. Ça sous-entend ce que tu as dit, quoi. Voilà.
Disons-le, hein, si vous ne l'avez pas encore compris, on aime les jeux édités par Microsoft. On adore tout un tas de studios qui ont été rachetés. Et c'est vrai que si on pouvait jouer, alors ça sort sur PC et Xbox toujours. Mais si ça pouvait sortir sur d'autres machines, franchement, il y aurait plus de joueurs. Le monde irait mieux.
Ouais, puis pour le coup, nous, à la différence de Joss, on va se le dire, parce qu'elle, c'est une pro PlayStation, moi, je le dis. Et en plus, comme elle nous écoutera, je sais qu'il y a une chance sur deux qu'elle nous écoute, donc j'aurais pas de remarques en interne, tu vois. Mais elle qui est passionnée de PlayStation, bah moi, je vais vous dire, le jeu que j'attends le plus cette année, donc ça va vous dire que moi, je suis plus orienté Xbox en ce moment. Moi, ça dépend des années, pour le coup. Hein. Mais le jeu qui me fait le plus envie de cette année, c'est Indiana Jones, hein, vous voyez, donc comme quoi, et ça sera une exclue Xbox, vous voyez, comme quoi. Allez, autre question. Si vous avez une question pour Hiroki Totoki, vous voyez, j'ai progressé en japonais en deux questions, c'est incroyable. Président intérimaire de PlayStation, est-ce que vous auriez une question à lui poser, Taldir?
Eh bien, je vais poser une question plus simple pour que tu puisses la comprendre. Pensez-vous à bosser sur des bons jeux sur le PSVR 2?
Ah, ça casse.
Déjà, je l'ai compris, mais moi, je peux même te répondre en place. C'est que le PSVR 2, ils n'y ont jamais cru. Ils ont voulu faire plaisir aux Japonais alors que la branche américaine n'y a pas cru. Donc je pense qu'ils vont...
Mais j'y crois toujours, j'aimerais.
Bah, ils y croient tellement qu'ils ont d'ailleurs arrêté la production des casques, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont, raison par contre d'ailleurs de faire la même stratégie qu'Xbox, parce que ça c'est ça qui me fait rire, moi, c'est qu'Xbox, on leur tombe sur la gueule parce qu'il y a eu notamment Sea of Thieves qui est arrivé sur PlayStation, et d'ailleurs ils ont eu raison parce que vous regarderez les chiffres, il y a 40 millions de joueurs inscrits en tout hein, sur le jeu, je sais pas si vous imaginez. Mais alors par contre, que PlayStation sort des jeux sur PC, ça ne dérange personne. Ça me fait rire, hein, parce que finalement, il y a quand même une perte d'exclusivité. Hein, donc à un moment donné, je vois pas pourquoi des fois on tombe plus sur la gueule d'Xbox que de PlayStation. C'est quand même quand on parle de foutage de gueule sur les réseaux, ça s'en est clairement. Hein. Et je pense qu'ils ont raison à le faire si ça peut augmenter une rentrée d'argent et d'avoir des sous pour toujours faire des plus gros jeux derrière, parce que c'est quand même une demande qui a du terrain. Bah, continuez à développer vos jeux sur PC. Et pourquoi pas un jour, mettez vos jeux sur Xbox. Ouais, allez, hein. Enfin, moi, ça serait pas déconnant. Fred, est-ce que t'as une question?
Ouais, moi, j'ai une question aussi. Alors, pas sur le VR2, comme t'as le dire, mais plutôt sur l'ADN de PlayStation. PlayStation, on a tous connu PlayStation avec des grands jeux cinématiques. Faut rappeler quand même que Metal Gear Solid, c'est né sur PlayStation, la première PlayStation. Et moi, je suis en manque de ça. J'ai envie de poser la question suivante. Pourquoi la PS5 est-elle si pauvre en sortie cinématique solo, en grande expérience solo, Voilà, parce que moi j'aimerais jouer à ça sur PS5 en fait.
Ouais, tout simplement. Bah, alors moi je vais leur poser la question directe. Est-ce qu'il existe encore une stratégie au sein de PlayStation ? Quelle est votre stratégie sur les années à venir ? Parce que, je sais pas, moi, quand je vois l'année 2024, comment elle s'annonce, alors ok, ils ont des exclus avec des éditeurs tiers, mais alors, en interne, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu très très peu d'annonces. Moi, je me demande comment va se passer la fin d'année, hein, pour le coup. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore un maître à bord ou est-ce que... Là, vous êtes en train de nous faire un petit Titanic, hein, parce que le problème, c'est que, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en interne, on sait qu'il y a eu à un moment donné, ils se sont dit, on va s'orienter à fond sur les jeux service. Bon, ce qui n'est pas déconnant quand tu vois le succès de Helldivers cette année, hein, qui est à la fois sur PS et qui est sur PC. Et puis, à un moment donné, il y a l'air d'avoir un changement en interne, de dire, on va plutôt repartir sur les jeux solo. Donc, bon, à un moment donné, il se pose la question, est-ce qu'il y a encore vraiment une réelle stratégie ? Moi, je suis un peu inquiet sur les années de PlayStation, les années à venir, même si on sait qu'ils ont quand même des forts budgets, hein, mais... Je suis inquiet sur la stratégie au long terme, on verra bien. Si vous aviez une question pour Geoff Kingley, hein, qui est l'organisateur de la Summer Game Fest. Allez, French.
Ah, la question à ce cher Geoff. Alors, allez-vous réduire les encarts publicitaires de votre événement commercial et augmenter le temps de parole des créateurs ? Voilà, ça m'apporte ce genre de question.
Ouais, d'accord, donc toi tu veux en fait qu'ils aient plus d'argent pour pouvoir faire une organisation d'événements, quoi.
Je veux que ce genre d'événement, ce ne soit pas une vitrine publicitaire, ce que c'est beaucoup trop à mon goût.
T'as le dire.
Geoff Keighley, combien de pourcentage de temps de communication sera consacré à votre pote Hideo Kojima encore cet été ?
Oui, donc tu trouves qu'il a mis trop en avant Death Stranding 2 au moment des Games Awards 2023, quoi ?
Au détriment de, ouais, d'autres temps de communication.
Ok, mais moi je suis assez d'accord. Alors ça n'a pas dû plaire à French cette question-là, parce que lui il adore Hideo Kojima, donc je...
Moi aussi, vraiment.
Moi aussi, mais je suis d'accord avec ta dire.
J'ai adoré Death Stranding, mais là, c'est trop quand même.
Ouais, j'avoue que c'est vrai que c'était... Enfin... Ouais, moi, c'est pareil, Death Stranding, je ne l'ai pas fait. Il va falloir qu'on le fasse aussi. Je vais le faire un jour pour voir, parce que moi, j'aime bien Hideo Kojima, mais c'est toujours pareil. J'ai l'impression que c'est devenu... C'est l'intouchable. J'ai l'impression qu'on peut critiquer ces jeux. Donc moi, je crois que je vais aller quand même faire Death Stranding. Jeter un petit coup d'œil et je vous dirai ce que j'en pense à Lucas, parce que...
Moi, j'ai adoré. Donc voilà, je dis
oui.
Ça comme question,
alors,
mais j'ai
quand
adoré
je vois
Death
la critique
voilà.
des peu de jeux qu'on a eu évoqués là, je vais encore plus si je
vais
encore
adorer.
Plus y aller, en fait, parce que quand je vois les conneries que tu m'as racontées depuis ce début de ce podcast, j'avoue que je suis pas rassuré.
Et moi, si je te dis que j'ai bien aimé, voire beaucoup aimé, et que je suis souvent de l'avis de te le dire, ça te rassure ou pas, John?
Bah, t'es souvent de l'avis de te dire, Atomic Heart, t'étais pas du même avis sur le Zelda Breath of the Wild non plus. Alors, toi, tu vis aussi?
C'est vrai.
Alors, le mec, non, mais alors ça, vous voyez, ça, c'est French. Le gars se dit, tiens, il y a la petite nouvelle, je vais créer une alliance avec elle, on va faire, je fais style, on s'aime. Les deux m'ont parlé de jeux auxquels ils sont pas du tout d'accord, et il me dit, je suis souvent de son avis. Donc, le gars se fout de ma gueule ouvertement, on est bien d'accord, quoi. Bon, bref. Bon, la question que je pose à Geoff Kingley, c'est est-ce que cette année, vous allez juste avoir un petit mot sur les personnes licenciées ? Parce que moi, ce qui m'a un peu gonflé lors des Games Awards, c'est qu'on a mis en avant l'hégémonie du monde du jeu vidéo, alors que l'année 2023 a été mais drastique en termes de coûts budgétaires et de licenciements, et j'ai été un peu étonné qu'il n'y ait pas quelques mots sur les nombreuses personnes licenciées. Est-ce qu'il va profiter, et ça lui avait été reproché d'ailleurs, est-ce qu'il va profiter de la Summer Game Fest 2024 pour avoir quelques mots là-dessus ? Voilà. Bon, c'est important, bon, c'est mon avis. Bah tiens, on parle beaucoup de jeux en ce moment. Si vous avez une question pour le studio Rockstar, que vous leur poseriez comme question, t'as le dire.
Est-il possible de sortir GTA 6 au plus vite pour faire bosser les équipes sur Red Dead Redemption 3, s'il vous plaît ?
D'accord, donc toi, c'est pareil. Mais hey, t'as le dire, à un moment donné, réécoute nos podcasts. Tu me dis tout à l'heure, j'aimerais avoir des nouvelles licences. Et la nana, elle te demande à Rockstar de bosser sur Red Dead. Tu veux pas qu'il te fasse une nouvelle?
Ben oui, non mais j'ai mes faiblesses, on a chacun nos failles.
Ce qui est important dans la GZ, c'est la cohérence. D'accord? Voilà. Tu retiendras cette phrase pour les prochains podcasts. French, une question.
Alors, autant j'aime bien Red Dead Redemption avec ma nouvelle amie Taldir, mais ma question n'a rien à voir. Ma question, c'est plutôt... Rockstar, merci de ne pas bâcler le jeu solo au profit de GTA Online New Gen. Merci parce que moi je préfère y jouer en solo.
Mais il l'avait pas fait sur GTA 5. Hein.
Non, effectivement GTA 5 a encore un grand solo, mais sur GTA 6, ça vaut ce que ça vaut. Mais on est en train de vaguement nous préparer et nous dire que le online serait une surcouche peut-être de GTA 6. En fait, qu'on n'aurait pas deux jeux séparés. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète un petit peu là-dedans.
Moi, la question que je vais leur poser, alors ça va pas être en lien avec l'actu qu'on a traité, c'est une news qui date un peu, mais c'est important de leur poser la question, c'est vous avez supprimé le télétravail au sein de vos équipes. prétextant les fuites, hein, bon, ça me fait toujours rire, parce que bon, s'il y avait des fuites, on les aurait déjà eues en amont. Est-ce que du coup, c'est une forme de crunch déguisé?
Bah oui, c'est... Non, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est pour mieux contrôler tes équipes.
Si vous avez une question à poser pour l'éditeur Microids, t'as le dire.
Au-delà de l'aspect esthétique du jeu qui a l'air prometteur, pensez-vous vraiment qu'un jeu de fourmis basé sur un livre paru il y a plus de 30 ans trouve son public au sein des gamers?
Ben moi, c'est un jeu qui m'intéresse, donc je vais te répondre que oui, et je pense qu'il y a un intérêt. Ce qui me rend curieux dans le jeu, bon, c'est pas tant l'histoire, c'est de comment ils vont réussir à renouveler les gameplay et l'effet de surprise. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est la monotonie du gameplay. Mais par contre, il est très très joli au niveau du trailer. Hein,
oui, ça c'est vrai, et j'ai hâte d'en voir plus.
French, Microids, alors, ça s'adresse pas à Fourmis, parce qu'il m'intéresse aussi. Hein. Mais à Microids, j'ai envie de leur dire, arrêtez le massacre. Concentrez-vous sur moins de licences et beaucoup plus de qualité, s'il vous plaît.
Tu sais que c'est une question qu'on doit poser. À quel moment t'as posé une question?
Non, il n'y a pas de question, en fait. C'est le message que j'avais envie de faire passer à Microids.
Le mec n'a rien compris de la rubrique, quoi. Tu sais, c'est le genre d'élève que t'avais à l'école. Tu lui expliquais les consignes et tu faisais l'inverse de la consigne à respecter, quoi. Tu devais être un élève très turbulent, à mon avis, quoi. Bon, alors moi, j'ai reformulé la question autrement de French, et ça sera en même temps la mienne. C'est quand est-ce que vous allez mettre les moyens financiers auprès des studios pour proposer des jeux convenables? Parce que c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure en les taclant, c'est qu'il faut un bon jeu sur quatre. Il y a le crime de Land Express que Just avait fait, qu'il avait trouvé très bon. Et derrière, on a eu Goldorak et Tintin, qui étaient désastreux en termes de gameplay ou d'optimisation, quoi. Voilà. Et moi, j'avoue que j'ai une petite faiblesse, je vais vous le dire, ça me fait rire, mais c'est que j'attends les Schtroumpfs, quoi. C'est-à-dire qui est développé par Microids, ça a l'air très très fun, quoi. Voilà. C'est un jeu qui ça ressemble un peu à du Mario Party, pour ceux qui n'ont pas vu. Si vous avez une question, alors liée au jeu vidéo, hein, c'est ce que je disais, pour le président de la République, Emmanuel Macron, French.
Ah oui, à notre cher président. Alors, serait-il possible de ne pas changer d'avis tous les 2 mois? Entre la diabolisation des joueurs et la flatterie visible des joueurs, il faut choisir.
T'as le dire, t'as l'occasion de t'adresser au président de la République.
Incroyable. Monsieur Macron, allez-vous continuer à relayer des événements caritatifs pour redorer votre blason envers le public des gamers?
C'est intéressant, elle vient de se mettre tous nos auditeurs pro-renaissance à dos avec une seule question, c'est... Elle est comme ça. Bon, ceci dit, c'est bien, elle met les mains dans le cambouis, comme on dit, quoi. Non, moi, j'ai lui posé une question un peu moins politique, mais ça évitera de se mettre à dos des gens. Mais on sait qu'en ce moment, l'industrie du jeu travaille une crise sans précédent. Comment comptez-vous protéger l'industrie française du jeu vidéo face à tout ça? Allez, encore une petite question à un membre du gouvernement. Si vous avez une question pour le ministre de l'économie, Bruno Le Maire,
qui a une forte sensibilité avec Renaissance, ce que je vois.
Suite à votre test de Uplectel Requiem lors de la Paris Games Week 2023, avez-vous continué à suivre les actualités de ce studio?
Ok. Bien plus.
Moi, je pose une question avant de laisser la place à French. Quand est-ce que vous comptez nous inviter avec French au ministère pour faire une partie de Mario Kart? Je sais pas, c'est un kiff qu'on se fait. Je ne sais pas pourquoi de vouloir faire une partie à Mario Kart à Bruno Le Maire et de lui mettre la raclée. Voilà, c'est... Bah non, mais en vrai, t'as le dire, mets-nous à notre place. Tu te fais ça un dimanche, tu vois, tranquille, avec une petite bière.
Non, mais ce serait chouette. Et puis avec les petits cartes, couloirs, là, c'est vachement bien.
J'ai éclaté le ministre de l'économie à Mario Kart. Franchement, ça te fait sur un CV derrière, non? Et French, c'est pas mal. Question.
Bah, et en plus, on pourrait être sympa. On pourrait ne pas utiliser la carapace rouge ou la carapace bleue, hein, Bruno. Donc pense-y. Bah oui, non, moi j'ai une question aussi un peu plus sérieuse. Enfin, quoique Mario Kart, c'est très sérieux également. Hein. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question à Bruno Le Maire, du coup. Serait-il possible d'aller plus loin dans les dispositifs de crédit d'impôt accordés aux entreprises du jeu vidéo? Et pourquoi cette question? Parce qu'on le sait tous, au Canada, à Québec en particulier, il y a tout un tas d'une fiscalité qui est très avantageuse et qui a permis l'essor de beaucoup de studios. Nous, on a les talents en France, ben peut-être que ça serait bien de les valoriser un petit peu mieux, de les aider plus.
Allez, bon, tu le connais pas trop, t'as le dire, mais je te pose la question, de toute façon, on va tous se poser la question. Si t'avais une question au chroniqueur French qui est avec nous, tu lui poserais quoi, t'as le dire?
Et ben justement, pour le connaître un peu mieux, quel est ton premier jeu? Qu'est-ce qui t'a donné la flamme pour cette passion?
Merde, je suis obligé de répondre là. Rapido, le premier jeu dont j'ai souvenir, c'est un jeu qui s'appelle Rick Dangerous et qui est un jeu qui est sorti sur pas mal de machines, dont l'Atari ST. Et mes premiers contacts jeux vidéo, c'est sur Atari ST. Voilà, Rick Dangerous.
Alors moi, je vais te poser une question, c'est quand est-ce que tu vas enfin admettre que tu préfères les jeux AA aux indés? Et même plus généralement, quand est-ce que tu vas assumer tes avis que tu as sur un jeu vidéo en podcast et que tu as tendance à lisser tes tests. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'attends de voir si tu es capable de vraiment critiquer un jeu et pas d'être mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que tu seras capable de ne plus être mi-figue, mi-raisin dans tes tests au sein des podcasts? Voilà.
Voilà. Écoute, alors déjà oui, puisque je le suis déjà. Si un titre me plaît pas, je le dis clairement. Si un titre me plaît avec beaucoup de réserve, je le dis également aussi. Donc t'inquiète pas, ça va continuer. Mais peut-être que tu veux que j'accentue ça, et c'est possible aussi.
Et French, si t'avais une question à toi-même.
Mais pour te répondre néanmoins sur un autre point, les triple A, oui. Et on a eu une sacrée belle sortie depuis le début cette année. Sauf qu'on a aussi eu depuis une petite titre qui s'appelle The Thaumaturge, qui m'a totalement enthousiasmé et qui n'a pas du tout le budget de FF7 Rebirth ou de Prince of Persia.
Et qui sont en train de développer The Witcher Remake.
Exactement. La question que je poserai à French, cher French, quand est-ce que tu reviens aux indés bizarres et obscurs? Parce que tu nous manques, merde. Voilà.
Allez, maintenant...
Et je pourrais même y répondre très très vite, parce qu'il y a de sacrées bizarreries qui arrivent le mois prochain.
Alors, si Friends avait une question pour la chroniqueuse, c'est à le dire. Hein, c'est la petite nouvelle qui vient d'arriver, qu'est-ce que tu lui poserais?
Ah bah bien sûr. Alors moi, la question qui me taraude depuis le début, t'as le dire, mais pourquoi ce pseudo, t'as le dire? Ça vient d'où?
Eh bah alors, pour les connaisseurs de l'univers de Warhammer 40 000 et les plus anciens d'entre vous, vous avez peut-être joué à la saga de Dawn of War. Et il s'agit d'une Eldar noire qui est bien stylée, bien badass. Donc la ref, elle est un peu obscure, mais j'adore l'univers de Warhammer 40 000. Et évidemment, j'attends avec impatience le jeu Space Marine 2.
Ok, alors moi je vais te poser la question, t'es pas obligé d'y répondre. Moi je suis moins sympa que French, hein, surtout quand j'accueille les nouveaux. C'est quoi t'as ton ambition secrète? Ta réelle ambition au sein de la GG? Et pour te préciser, est-ce que t'as pas pour objectif de remplacer un jour Joss?
Alors non. Mais c'est de répandre mon bon goût, hein, parce que visiblement il y en a besoin dans le coin, de soutenir les jeux que j'aime et surtout de descendre ceux que j'ai pas aimés. J'ai un maximum d'opinions impopulaires, donc je pense que ça va clasher dans le coin.
Ok, très bien. Et bah t'as le dire si t'avais une question à te poser à toi-même.
Bah au vu de ce qu'on a pu dire tout au long du podcast, comment ça se fait qu'ici il n'y a que moi qui ai des bons goûts?
Bon, et...
ça va les chevilles?
Vous savez quoi, je réponds pas à ça. Juste par manque de temps, pour que vous ayez une podcast de 2h30, parce que je vais vous dire un truc. Les premiers mots qui me viennent à la défense des chevilles, moi, c'est que je les insulte clairement. Donc, je vais les garder pour moi et je vais attendre les prochains podcasts de Clash pour lui apprendre ce qu'est un jeu vidéo. Parce que je pense que du fait de son jeune âge. Finalement, elle découvre ce qu'est le jeu vidéo et du fait de notre expérience à French et moi, on saura lui apporter maturité, objectivité et recul surtout. Voilà.
Merveilleux.
Et je vais m'arrêter là. Et la dernière question, je garde toujours le meilleur pour la fin. Si vous souviez vous adresser à moi-même, à Jalma, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? On va commencer par French, parce que nous, on est potes de base.
Ah bah bien sûr, mon cher Jalma. Alors, je vais parler que de la guerre des gamers, mais... Pourquoi tant de colère dans tes prises de parole? Je rêve d'un Jalma plus doux. Serais-je exaucé en cette année 2024?
Alors moi, je vais te répondre par une autre question. Pourquoi faire comme la masse? Voilà. Taldir, si t'avais une question à me poser.
Sais-tu, Jalma, qu'il est possible de suivre des séances d'hypnose afin de s'apaiser et de retrouver la paix intérieure?
Ah, mais la paix intérieure, elle est bien présente. Mais comme je vous dis, on fait bien un podcast de débat. Et qu'à un moment donné, si ici, on n'est même pas capable de donner nos idées avec des fortes opinions sans rentrer dans des colères noires, c'est pas du débat, quoi. Je veux dire, il y a d'autres podcasts pour ça. Si vous voulez aller faire des thérapies d'hypnose, je vous invite à aller vers d'autres podcasts de jeux vidéo. Je pense que vous y trouverez vos équipes. Et bien évidemment, je vous rappelle que si vous souhaitez partir, déjà avec grand plaisir, nous n'allons pas vous retenir en interne et que vous partirez bien évidemment sans indemnité car nous sommes dans du bénévolat. Et moi, je terminerai par la question que je me poserai et qui, je pense, a été mieux construite que vos deux questions. C'est Jalma, tes analyses sont toujours pertinentes. Où trouves-tu tout ce talent? Voilà, voilà. Et on va s'arrêter là. Je vous remercie pour ce podcast numéro 48. C'est le 48e épisode, ça n'arrête pas. Donc, on se retrouve très, très, très bientôt en podcast. Peut-être pour un jeu qui fait beaucoup, beaucoup parler de bien sûr, qui est en accès anticipé. On se tâte en interne de faire, on va dire, un petit test d'un jeu en accès anticipé qui, forcément, on sera meilleur derrière, donc on le retraitera dans un podcast final. Mais on s'est dit, pourquoi pas, pour une fois, vous parler d'un jeu en avant-première et vous donner notre vrai avis. On vous laisse deviner sur lequel il choisit. On dit juste que c'est les créateurs de Ori qui sont derrière. On n'en dit pas plus. Ah, je donne des petites infos comme ça, je pense qu'ils vous trouveront. Allez, on aime bien faire notre petite pub en interne. On a critiqué les streamers qui le faisaient, mais on est obligé de le faire aussi. Vous avez aimé le podcast. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce sur nos réseaux, notamment Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ce que vous voulez. Ça nous aide à avoir de la visibilité, ça nous aide à monter. Et si vous n'appréciez pas Joss, qui n'est pas là actuellement, n'hésitez pas à vous désabonner de son X directement, qu'elle perde des followers. Moi, ça me fera grand plaisir. Voilà.
Oh, le vilain.
Un dernier mot à dire, vous dites au revoir.
Merci beaucoup pour l'accueil et au plaisir de se retrouver très bientôt.
Eh ben, jouez bien. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, histoire de partager aussi vos petites pépites. Et puis, bonne semaine à vous.
À bientôt. Salut, jouez bien.
Ciao, ciao.